Merci. Nous, c'est Radio Mindéléo dans notre émission Paix et Développement de ce dimanche 31 mai 2026. Jean-Claude Dendag est à la mise en onde devant le micro, Thaïs Bagoula. Nous serons ensemble jusqu'à 10h, heure de Bukavu. Quelle est la matière de ce dimanche, chers auditeurs? Malgré les boycotts des députés de l'opposition, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a approuvé mercredi 27 mai, sous réserve d'amendement, les conclusions du rapport de la proposition de loi relative à l'organisation du référendum en RDC, portée par les députés Paul Gaspard Ngondankoy. Cette réforme vise à remplacer la loi de 2005, jugée dépassée, afin de redéfinir les cadres juridiques de consultation populaire en République démocratique du Congo. L'Ouganda a temporairement fermé mercredi 27 mai ses frontières avec la République démocratique du Congo face à l'intensification de l'ampleur de l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola chez son voisin, a annoncé une haute responsable du ministère ougandais de la Santé. L'Ouganda a enregistré cette infection confirmée par le variant Bundibugyo du virus depuis que l'épidémie a été déclarée le 15 mai à Ituri, région du nord-est de la RDC qui lui est frontalière. Mais également les frontières terrestres entre la RDC et le Rwanda à partir de la ville de Bukavu et de Goma sont fermés depuis le lundi 18 mai 2026. La décision a été prise très tôt dans la matinée du lundi par les services de l'immigration du Rwanda afin de prévenir l'expansion sur le sol rwandais du virus maladie à virus Ebola déjà déclaré en République démocratique du Congo. Quelles sont les conséquences économiques de fermeture des frontières? Nous allons en parler dans cette émission Paix et Développement. Nous accueillons dans ce studio Maître Maurice Mirindi, qui est le rapporteur adjoint du Bureau de coordination de la société civile. Bonjour Maître Maurice.
Bonjour Thaïs, bon dimanche à vous. Bonjour aux fidèles auditeurs de Radio Mindéléo. Bonjour également aux collègues ici au studio.
Merci Amos Bissimoa, il est militant de l'OBAPEJ RDC. Bonjour Amos Bissimoa.
Bonjour cher Thaïs, bonjour aux débatteurs avec qui nous serons dans ce studio. Bonjour à toute la population qui est en train de nous suivre, et certes, les militantes et militants du grand mouvement Sauve Pays DRC qui nous suivent à volonté.
Maître Barnabé Mufungizi, il est notable de Kabare. Maître Barnabé, bonjour.
Bonjour Thaïs, je profite de saluer mes co-débatteurs ici dans les studios. Je salue également tous les notables de Kabare, toute la population de Kabare, surtout ceux qui nous suivent pour le moment, mais aussi plus particulièrement la population de Busega Chibingu qui souffre ces derniers temps.
Merci Maître Barnabé Mufungizi. Le dimanche passé, nous étions encore avec vous pour parler de cette insécurité qui sévit dans votre milieu. Alors, est-ce que la situation s'est améliorée?
Merci Thaïs. C'est très compliqué. C'est vrai, le dimanche, on a essayé de débattre sur cette matière, mais malheureusement, rien n'est visible sur terrain comme impact positif. Et la situation s'est plutôt empirée. Les gens ne cessent plus de passer toujours la nuit à la belle étoile. Et les villages de Busega, Bubinzi d'ailleurs, ça s'est agrandi parce que la population de Busega, Chibingu, qui s'est déplacée dans le groupement de Bushura vers Kinjuba, en tout cas, même ceux qui sont vers Kinjuba sont désormais en train de se déplacer. En tout cas, tous ces deux coins sont vidés suite au pillage qui se multiplie. Et il y a aussi un problème lié à la fréquentation des écoles. Il y a des écoles là, l'EPE Busega, l'EPE Busenge, mais aussi l'EPE Kinjuba. En tout cas, depuis qu'on a commencé le pillage, il n'y a pas fréquentation sur ces deux écoles. Alors, comme tout Congolais est en train de s'interroger, quel est le sort de ces élèves? Je vois mon ami Amos qui venait de nous dire que l'année est en train de prendre fin, l'année scolaire. Alors maintenant, on se demande quel sera le sort de ces élèves, hein, quel sera le sort de ces habitants qui sont en souffrance, autant que leurs parents, y compris ces élèves, ne passent pas la nuit à la maison, tout comme ne passent plus le temps en train de faire leurs occupations. On comprend aussi que ces élèves, ces enfants, souffrent également. C'est pourquoi j'ai dit revenir encore ici, interpeller encore une fois les autorités, tant provinciales, tant territoriales que locales, de pouvoir nous amener la paix. Nous avons besoin de la paix. Je l'ai dit le dimanche ici que la population ou les habitants de Tshibingu, de Kindjouba, en tout cas, sont aussi les mêmes que ceux qui vivent ici en ville, que ceux qui vivent ailleurs aussi, ceux qui sont à l'aise, qui se déplacent bien, qui s'évacuent librement dans leurs occupations. Cher Thaïs, nous avions rappelé que la plupart des activités de là sont des presses, les activités champêtres, mais pour le moment, en tout cas, rien ne va. Vous ne pouvez même plus avoir quelqu'un qui passe sur la route, quelqu'un qui se débris comme d'habitude, vous allez constater que ceux qui utilisent des braises vers la ville, les prix est en train de galoper parce que on ne produit plus de braises. Alors c'est pourquoi nous interpellons les autorités de pouvoir se préoccuper de notre situation, nous les habitants de Tshibingu, nous les habitants de Kabaré.
Merci beaucoup, Maître Barnabé. Nous pensons que les autorités qui sont en train de nous suivre vont prendre cette question à bras le corps. Mais est-ce que vous n'avez pas encore identifié les personnes, les groupes qui insécurisent cette population?
En fait, Thaïs, jusqu'à là, vraiment, on ne sait pas les identifier parce que, en tout cas, on ne sait pas les identifier. Seulement, ce qui frise, c'est de constater que les autorités actuelles se sont installées non loin du parc pour garantir la sécurité à ces paisibles citoyens. Mais, quand cela ne tienne, on voit toujours les gens sont en train d'être pillés nuit et jour. Je l'ai dit dimanche qu'on passe même partout. Hein, on touche au bas des valises, on touche, on pille des vaches, on pille tout. Mais, à l'abri toujours des autorités actuelles qui sont installées non loin du parc. Alors, voilà. Pourtant, ils sont là pour nous garantir la sécurité. En tout cas, jusque-là, ils ne sont pas identifiés. Mais nous pensons que cette fois-là, comme nous revenons encore une fois, les autorités vont nous comprendre et s'imposer pour que la sécurité soit une garantie pour tout citoyen congolais.
Les dimanches passés, nous étions ici avec les amis de l'AF 123 et qui parlaient de local défense. Les autorités estimaient qu'il faut que les habitants de Tshibingu s'intègrent dans la local défense. C'est le seul moyen qui reste pour que Tuditegeme et Kwa Salama. Oui. Je ne sais pas, c'est vous comme leader, est-ce que vous avez adhéré à cette proposition d'envoyer les jeunes aller être formés pour qu'ils participent à la sécurisation de leur milieu?
Merci cher Thaïs, c'est très important. Nous comme leader, nous n'avons pas de problème. Nous n'avons pas de problème. C'est le mal qu'il faudrait que les gens soient sensibilisés davantage, qu'ils comprennent l'importance de ces locales défense, qui comprennent l'importance de ces locales défense au fait. Et nous, à notre niveau, nous pensons que ce n'est pas un problème. La population, si elle cherche ou les habitants cherchent à vouloir se couvrir, se protéger, c'est pas mauvais s'ils étaient des gens sensibilisés davantage et savoir l'objectif principal. En tout cas, nous, on n'a pas de problème, cher Thaïs. Et nous avons tous besoin de la paix et tous les jeunes peuvent être sensibilisés. S'ils sont sensibilisés, rien ne peut empêcher qu'ils soient qu'ils intègrent et voir s'ils peuvent trouver la bénéficier de l'intégralité de la sécurité.
Merci beaucoup, Amos Simon, avant que l'on prenne le sujet du jour.
Au fait, Paul, cette population de Chibingu
et de Busege, Binzi, Lulonde,
partout là où tu as cité, qui est victime de l'insécurité actuellement. Mais je venais de les suivre avec intérêt. Je tiens à dire à ce micro, et comme nous cessons de le dire, que la sécurité est une affaire de tous. Ce qui est vrai, les autorités ont la grande charge de sécuriser sa population. Lui-même venait de dire qu'il y a des militaires qui sont installés,
de l'AFCM
23 installés
non loin
du parc. Mais en expliquant ce qu'il dit, parce que vous lui avez posé la question, est-ce que vous n'êtes pas parvenu à identifier les auteurs de cette insécurité? Lui-même dit non. Est-ce que ce ne sont pas des gens qui vivent avec vous, qui sont à la base de cette insécurité? Et vous, comme leader du milieu, vous devriez travailler concomitamment avec les services de sécurité, comme vous avez à le dire, pour voir comment parvenir à mettre fin à cette situation d'insécurité. Parce que la plupart des fois, et je cesse de le dire, on a toujours vécu le cas de Fender ici à Bukavu. Je me dis, quelqu'un ne peut pas quitter Chiriri ou Bagira autour de 19h, 20h, 21h pour qu'il y ait quelqu'un qui tout d'ap. Ça ne s'explique pas. Et dès qu'on le poursuit, dans moins de 2 minutes, en apoté. Pour dire qu'il est du milieu, il maîtrise le milieu. Voilà pourquoi, tout en appelant les services de sécurité, les autorités de l'AFCM23 de bien faire leur travail en sécurisant la population, parce que c'est ça la mission, la première mission régalienne des autorités. Et je demande aussi à la population concernée, Bangali et Kamombo, Abopeke, Mbopeke, Hamouna Bari Batoubenyebi, quoi, la base de cette situation que nous tous nous condamnons.
Merci beaucoup. Nous accueillons dans ce studio M. Idebakulu Magadjou, qui est analyste indépendant. Idebakulu, karibu.
Aksanti sana bwana Thais. Na salimia wa ndugu wote wanaofuata kipindi hiki.
Merci.
Na wandugu wanaokuwa kwa hii meza juu ya kusumulia.
Asante sana. Daniel Murula, il est analyste indépendant. Daniel, bonjour.
Bonjour, directeur. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Mandeléo, mais aussi à tous les amoureux de cette grande émission au pays et développement.
Ah, voilà, et bien cravaté ce dimanche.
Oui, je viens de l'église.
Ah, d'accord. Merci beaucoup. Il a commencé par l'église. Voilà, c'est une grande bénédiction. Merci beaucoup, Daniel Murula. Merci. Nous allons commencer le premier sujet de cette émission. Comme vous l'avez entendu, chers auditeurs, l'Ouganda a temporairement fermé mercredi 27 mai ses frontières avec la République démocratique du Congo face à l'intensification de l'ampleur de l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola chez son voisin, a annoncé une haute responsable du ministère ougandais de la Santé. L'Ouganda a enregistré cette infection confirmée par les variants Bundibugyo du virus depuis que l'épidémie a été déclarée le 15 mai à Ituri, région du nord-est de la RDC qui lui est frontalière. L'Ouganda ferme temporairement sa frontière avec la RDC avec effet immédiat. Les seules exceptions concernent les équipes autorisées de répondre à Ebola, les opérations humanitaires, les transports de nourriture et de fret sous strictes conditions, notamment d'examen médical, a déclaré à la presse le docteur Diana Atwine, secrétaire permanente du ministère. Toute personne de retour en Ouganda en provenance de la RDC devra s'isoler de façon obligatoire pendant 21 jours sous la supervision d'équipes médicales, a-t-il ajouté. Tous les médias doivent désormais consacrer 30 minutes chaque jour de leur programme en prime time à la sensibilisation et la prévention d'Ebola, a-t-elle indiqué. Concrètement, les déplacements entre les deux pays seront fortement limités et les Ougandais revenant de la RDC devront observer une quarantaine obligatoire de 21 jours. Et dans les milieux des affaires, certains commencent déjà à exprimer publiquement leur inquiétude, même si la fermeture reste partielle et que les transports de marchandises restent autorisés, ces garanties ne rassurent pas totalement. L'Association des industriels ougandais s'inquiète notamment des conséquences pour les produits alimentaires en cas d'attente prolongée aux postes frontaliers pendant les contrôles sanitaires. Le ministre des Transports assure toutefois que les échanges commerciaux seront maintenus, mais il insiste, la priorité reste la santé publique et ces restrictions resteront en place aussi longtemps que nécessaire. Les frontières terrestres entre la RDC et le Rwanda, partie de la ville de Bukavu, sont fermées depuis le lundi 18 mai 2026. La décision a été prise très tôt dans la matinée du lundi par le service de l'immigration du Rwanda afin de prévenir l'expansion sur le sol rwandais du virus Ebola. C'est ce qu'a déclaré c'est ce qu'ont déclaré les autorités, précisant que la maladie à virus Ebola est en train de s'épanouir sur toute la région. Le constat fait par votre rédaction au poste frontalier de Ruzizi Premier confirme l'interdiction d'entrer sur le sol rwandais pour tous les Congolais. La traversée est autorisée uniquement aux Rwandais en séjour à Bukavu afin de leur permettre de rentrer chez eux, ainsi qu'aux étrangers qui prennent le Rwanda comme pays de transit. À l'opposé, les Congolais qui se trouvent au Rwanda sont également autorisés à traverser la frontière pour retourner en RDC. Les autres voyageurs congolais à destination de Kamembe, Kigali, Kampala et d'autres pays de la région, ainsi que des citoyens congolais qui souhaitent se rendre au Rwanda pour des transactions économiques, sont bloqués au niveau de la frontière. Nous allons analyser les conséquences économiques de ces mesures de fermeture de frontières avec les invités dans ces studios, parce que les conséquences ont commencé déjà à se manifester à plusieurs endroits. Et il y a même des mesures qui sont envisagées par les autorités. Mais nous étant également en guerre, les autorités devraient faire très très attention de peur de ne pas asphyxier la population davantage. Idé Bakulu, vous savez, vous êtes dans ces studios, vous êtes de ces deux domaines économiques. Depuis que les banques ont été fermées ici à l'est de la RDC, après la prise de la ville de Bukavu et de Goma par l'AFC-M23, certains Congolais ont ouvert des banques au niveau de Gisenyi, au niveau du Rwanda et ici à Kamembe. Et c'est là où certaines personnes partent s'approvisionner en argent. Malheureusement, les frontières sont fermées. Et si vous fréquentez les bars, vous allez constater qu'aujourd'hui, la baie de gel, la Bralima, l'ancienne Bralima, a des difficultés de produire certaines bières, notamment la Mizing, je crois. Oui, il y a certaines bières qui ne sont plus visibles, Superbock, Mizing, Sucré. Voilà, c'est à cause de manque de matières premières. On apprend que la guerre au Moyen-Orient, également Ebola, les frontières qui ne sont pas totalement ouvertes, ça pose problème. Et donc apparemment, la baie de gel utilisait encore les matières premières laissées par l'ancienne Bralima. Alors, apparemment, même les étiquettes ne seront plus là, peut-être les bouchons, les vides sont introuvables sur le marché, les emballages, ça pose problème ici dans la ville de Bukavu, même si on n'en parlait pas. Alors, avec la fermeture de la frontière, ça va poser encore davantage. Certains courriers en provenance de partout au monde, envoyés via DHL, vous savez que DHL, c'est parmi les agences au niveau mondial qui transmet, c'est une agence qui envoie des documents courriers. Hein? Alors, c'est au niveau de la frontière ici à Kamembe où les gens, hein, même pendant cette guerre, ils partaient prendre des documents parce qu'il y a des documents que vous ne pouvez pas recevoir scannés. On exige parfois les copies en dire. Et on est obligé de les envoyer via DHL. Ça peut quitter en Afrique du Sud, au Liban, partout au monde, parce que c'est ça. Mais malheureusement, on ne sait plus le faire à cause d'Ebola. On ne sait pas se déplacer vers Kamembe. Voilà. Donc nous sommes dans cette situation-là, et Ide Bakulu. Mais ici, à Bukavu, j'ai appris qu'il y aura certaines interdictions. Et j'ai vu que les gens jasaient, en tout cas, c'est dans les réseaux sociaux. Heureusement qu'on a dit qu'on va corriger. Mais il y a des mesures qui sont prévues par les autorités qui seront respectées. Donc, tout en risque, Koufi a pas. Ide Bakulu, vous avez la parole.
Bon, merci beaucoup, Thaïs. On dirait que nous sommes poursuivis par, comment on dit ça, je ne sais pas quel malheur. D'abord, la guerre au Moyen-Orient, comme vous l'avez dit, elle nous était déjà très très lourde depuis un certain temps. Comme vous voyez, le prix du carburant, et le prix de beaucoup d'autres produits d'importation et de première nécessité. Maintenant, déjà on était en guerre, et puis maintenant c'est l'épidémie. Chaque fois qu'il y a une épidémie aussi virulente comme celle que nous connaissons maintenant dans notre région, c'est toujours très 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 difficile pour la population. Il y a beaucoup de restrictions, déjà que les frontières sont fermées, vous avez déjà énuméré toutes les conséquences. Plus de ce que vous avez dit, vous voyez toute une activité économique qui se développe au niveau de la frontière ici, notamment pour les vivres, surtout les produits vivriers, la farine, le riz et tous les autres.
C'est du boom au niveau de la frontière.
C'est du boom au niveau de la frontière, et malheureusement, à cause de la fermeture de la frontière, ça pose problème. Ça pose problème au niveau de ceux qui vendent, ce sont souvent nos voisins du Rwanda. Pour ceux qui achètent aussi, c'est nous. La conséquence est que le prix va
galoper.
Oui, le prix va galoper, le prix va augmenter au niveau de ces produits de première nécessité, ce qui est très grave. Déjà, comme vous l'avez dit, ici, les activités économiques, de manière générale, ont baissé d'intensité. Il y a toute une économie qui s'organise autour des frontières. Nous sommes trop enclavés, nous, ici au sud, nous sommes trop, trop enclavés. Nous n'avons une ouverture que sur le lac Tanganyika. Or, sur le lac Tanganyika, là aussi, ça pose problème. Quitter ici pour aller à Uvira, c'est déjà un problème très sérieux. Les marchandises ne viennent que par des camions. Depuis le port de Dar es Salaam ou du Kenya jusqu'ici. Ça ne peut passer que par les frontières ici. Le Rwanda, le Rwanda principalement pour nous ici, et même du Burundi aussi. Donc, vous voyez que ça pose énormément de problèmes. En plus de cela, nous devons lutter contre la COVID ici chez nous. Non, contre l'Ebola. Ici chez nous, j'apprécie déjà que les autorités pensent à prendre des mesures parce que, effectivement, ici localement, nous nous comportons comme si nous n'étions pas en danger. Comme si nous n'étions pas en danger. Déjà, quand je suis les statistiques actuelles, c'est que dans la zone de Miti Muresa, il y a déjà des cas qui sont avérés. Il y a eu même mort, ce qui veut dire qu'avec le système de contact, tout, nous sommes des Africains, nous sommes des Bukavu, nous sommes d'ici, nous nous saluons tous les jours, nous nous embrassons, c'est qu'il y a quand même le virus qui est en train de se propager. Et il faut effectivement que les autorités prennent des mesures, et ces mesures-là, nous devrions les respecter. Ce sera très dur pour nous, mais nous n'avons pas d'autre choix que d'observer les mesures comme nous l'avions fait du temps de Covid et même dans son temps quand encore Ebola avait menacé la province du Sud Kivu. J'avais vu le gouverneur de province aller jusqu'à chercher un cas contact jusque dans les fins fonds de Mwenga. Donc c'est un virus vraiment virulent. Quand nous apprenons comment nos compatriotes sont en train de tomber au niveau de l'Ituri, si ici nous avons des mesures qui peuvent nous protéger contre ces virus, vraiment nous devons les respecter. En respectant les mesures, ça va encore dommage, hein, parce que c'est comme en économie, non, en comptabilité. Le passif, quand il y a une opération au passif, il doit avoir absolument une opération à l'actif. Ce qui veut dire que, en faisant encore les mesures de barrière, ça va encore impacter sur l'économie. Donc, nous devons nous attendre à tout cela. Il ne faut pas qu'on cache à la population ce qu'il y a là. Mais il y a quand même un prix à payer pour nous protéger contre ce virus. Parce que quand les mesures, je suppose que les mesures barrières que vont décréter les autorités vont encore une fois diminuer, hein, les mouvements entre la population. Par exemple, dans un taxi, il n'y aura plus de 3 personnes, par exemple. Donc, un taxi qui n'amène qu'une personne, qui a moins d'une personne, comme d'habitude, ça veut dire que le taxi va augmenter de prix. Les gens qui vont marcher dans le nord, quand vous voyez le mouvement qu'il y a ici, chez Mwanzi, d'où je viens d'ailleurs tout à l'heure. Donc, il y a vraiment des mesures qui vont être prises et qui vont impacter sur notre vie de chaque jour.
D'accord. Ouais. Mais comment on va justement, Idé Bakulu, quels seraient, et même d'autres invités? Parce que déjà, vous reconnaissez que nous sommes asphyxiés par la guerre, nous sommes asphyxiés par la socio-économique. Maintenant, si on prenait d'autres mesures, si par exemple on disait que bon, dans les taxis, il faut entrer 3 personnes, alors que les taximens eux-mêmes ont des difficultés de trouver des clients. Un litre de carburant, c'est 4500 francs. Alors, facilement, vous êtes en train de suivre comment les taximens pleurent. On ne sait pas traverser la frontière pour s'approvisionner parfois, et que l'on prenne encore d'autres mesures qui touchent sur le vécu quotidien de la population. Est-ce que vous ne sentez pas qu'on risque de trouver un mort d'homme ici? Et voilà, et les gens risquent de s'opposer. Mais est-ce que ça ne serait pas seulement bon que les gens observent les mesures barrières, les lavages, parce que les seuls médicaments, la seule prévention, c'est l'effet de se laver les mains ou d'utiliser notre gel désinfectant. Et les gens doivent prendre conscience, tout simplement. C'est pas en interdisant certaines choses qui touchent l'économie que l'on va nécessairement mettre fin à l'épidémie. Bon, moi, je ne sais pas. C'est à vous de voir. Je ne sais pas. Parce que les autorités sont encore en train de nous suivre. On peut prendre des mesures impopulaires. J'ai vu les amis motards en train de pleurer que c'est tous ceux qui quittent Bagira qui ne savent plus traverser la place de l'indépendance. Ils sont très, très, très fâchés. Je dis, ben voilà.
Même la population.
Nous ne savons pas pourquoi les autorités ont pris cette mesure, mais nous savons que d'habitude, les amis, certains motards ne sont pas disciplinés, ils veulent résister contre la police. Mais aussi, on doit tenir compte du fait que beaucoup de familles vivent de ça. Si on prend des mesures draconiennes qui peuvent asphyxier la population, alors que nous sommes aussi en guerre, ça serait un grand problème.
Oui, c'est ce que j'ai dit au début, c'est que vraiment nous sommes suivis par une sorte de malheur, par des signes indiens, comme on dit. Et c'est terrible, nous sommes en guerre déjà. Au Moyen-Orient, les choses sont bloquées au niveau du détroit d'Hormuz. Il y a le virus qui vient. Ce qui est vrai, c'est que en termes de mesures contre une épidémie comme celle-ci, en tout cas, il n'y a pas de mesures populaires. Parce que tout le monde voudrait que, effectivement, qu'il soit libre, qu'il fasse ce qu'il veut. Or, nous ne sommes pas dans une situation où nous devons faire ce que nous voulons. J'étais sur l'axe Moudak à la fois passé. J'ai vu qu'au niveau de, ici,
Kazingo.
À Kazingo, j'ai vu que quand même, il y a des mesures qui ont été prises. Les gens arrivent là-bas, ils quittent le véhicule, ils se lavent les mains et puis ils continuent. Donc ça, c'est déjà une mesure. Maintenant, les mesures qui vont faire en sorte que nous n'ayons, quoi qu'il en soit, une petite mesure, petite soit-elle, doit impacter directement sur l'économie. Vraiment, j'en appelle. Hein. C'est vrai que on doit prendre des mesures qui ne vont pas dans le sens de bloquer totalement la vie ici. Mais ces mesures doivent être prises quand même, parce que, comme je l'ai dit avant, tel que je vois, nous sommes en train de nous comporter, c'est comme si nous n'avons aucun danger devant nous. Pourtant, il y a eu déjà, comme on a dit, comme j'ai appris, il y a déjà eu des cas avérés au Sud Kivu. S'il y a des cas avérés au Sud Kivu, c'est-à-dire que les gens sont en train de se promener avec le virus. Et si nous ne faisons pas attention, ça va être, c'est toute la population. Mais nous devons faire en sorte que nous évitions les cas qui est arrivé à Nitouri.
D'accord.
Parce que les cas qui est arrivé à Nitouri, pourquoi aujourd'hui nous sommes dans tout ça? C'est tout simplement parce que ceux qui gèrent Nitouri, notamment le gouvernement central, ont failli à leur mission. Les virus a circulé selon l'OMS, même selon le gouvernement. Le virus a circulé pendant plus d'un mois, sans qu'il soit détecté. C'est vraiment... Et même... J'ai suivi Mouyembe dire qu'il ne reçoit pas de frais de fonctionnement. S'il n'y a pas de frais de fonctionnement, comment voulez-vous que les gens surveillent un virus? C'est impossible, c'est impossible. Donc, il faut vraiment que nous nous réveillions. J'ai même suivi, et comme vous l'avez dit, le président, je ne sais pas si on l'appelle président de l'OMS, je l'ai suivi. Évidemment, il nous donne de l'espoir. Et j'ai apprécié son discours. Il nous donne de l'espoir. Oui, il dit, non, la fermeture des frontières, ce n'est pas une solution, en fait. Ce n'est pas une solution. Je crois qu'au niveau des frontières, nous connaissons la frontière que nous connaissons le plus ici, c'est la frontière du Rwanda ici. Déjà, eux, depuis très longtemps, ils sont dans les mesures depuis très longtemps. Vous ne pouvez pas franchir la frontière du Rwanda si vous ne vous êtes pas lavé les mains. Ils prélèvent tous les jours, ils prélèvent la température. Donc, jusque-là, bon, c'est vrai que le Rwanda est souverain, c'est un pays souverain, il doit protéger sa population. Mais est-ce que c'était vraiment ça la mesure qu'il fallait prendre tout de suite? Les économies du Sud Kivu, aujourd'hui, depuis qu'ils ont fermé les banques ici, c'est au Rwanda, les économies du Sud Kivu, les gens du Sud Kivu, c'est au Rwanda qui gardent leur argent. Donc c'est dans les banques rwandaises. Donc, d'une manière, en fermant les banques ici, on a avantagé les banques
du Rwanda.
Les banques du Rwanda. Donc des mesures, comme nous avons dit, il y a des mesures qu'on prend, mais il faut effectivement bien réfléchir les mesures pour que ces mesures ne soient pas contre-productives.
Voilà. Ambos, vous êtes dans ce studio, nous sommes en train d'évoluer. Le virus Ebola est là. Nous devons faire très très attention. Mais il y a des décisions qui sont en train d'être prises, comme on venait de le dire. La fermeture de frontières, d'autres décisions risquent de tomber demain. À la même, on a tant appris à la fermeture de certains bars, bistrots, et également des concerts musicaux, des rencontres sportives. On peut arriver à ce niveau-là. Bon, déjà avec la situation dans laquelle nous sommes, qu'est-ce que vous avez à dire, vous, comme analyste?
Vraiment, pour le peuple congolais, et plus particulièrement nous qui vivons à l'Est. Ce qui est vrai, ce n'est plus un secret de Polichinelle. Tout le monde sait que le virus est là. Et il circule au sein de la population. Je pense que, tout en étant conscient que le virus est là, mais les autorités, en prenant des mesures barrières par rapport à ce virus, ils doivent aussi tenir compte de la situation nous imposée, dans laquelle nous vivons depuis un temps. Vous avez évoqué la question de la fermeture des banques. Il y a des ONG qui ne sont plus au Sud Kivu, à Goma. Il y a même des divisions qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire beaucoup d'activités ont fermé. Et cela a négativement impacté sur la vie de la population. Du coup, le virus tombe. Mais si vous essayez de faire une analyse, vous devez comprendre avec moi que si on avait des dirigeants responsables, on ne serait pas au niveau où nous sommes aujourd'hui. Et c'est là que je ne parviens pas à comprendre des gens normaux qui continuent à soutenir des défaillants au sommet de l'État. Ide Bakulu a évoqué, ce n'est pas Ide Bakulu, mais selon les informations que tout le monde a, le virus a été détecté à Ituri. Et on dit qu'il fagne plus de mois. Batubiko va y consommer, va y fagne bioté. Sans que les dirigeants Bajoué Kama, population est en danger. Mais ils étaient toujours dans la jouissance comme d'habitude. Ils voyagent sans programme. C'est révoltant. Et aujourd'hui, maintenant, des mesures tombent pour faire souffrir la population davantage. Davantage. Je suis moi-même le coordonnateur là de l'OMS. C'est le président, si on l'appelle le président, je ne sais pas. Il a été clair.
Directeur.
Lui-même a condamné le fait que la RDC a géré cette question avec négligence. Et qu'aujourd'hui, c'est la population qui souffre déjà de l'irresponsabilité de nos dirigeants. Mais, heureusement, vous avez dit qu'on va évoquer même cette question. Irresponsables politiques, ils sont sorciers. Ils veulent sauter sur le changement de la constitution comme si la constitution de l'Ibambien n'avait pas géré un problème, il y a Ebola. Nous, vraiment, ça révolte. Nous devons apprendre à nous dire des vérités. Des vérités parce voilà. Que ça énerve.
Et maintenant, localement, qu'est-ce que vous pouvez proposer?
C'est là que je voulais arriver. Localement, j'appelle les autorités en place à prendre des mesures en tenant compte d'abord de la situation dans laquelle nous vivons. Toutefois, aussi à la population de respecter les mesures barrières. On nous a dit qu'il faut se laver à chaque fois les mains, éviter ma contact, tout ça sont des mesures que la population devrait appliquer pour éviter le pire. Sinon, si on dit qu'on va jusqu'à prendre des mesures, bafungé manganda, ma bistrot, ma nanini, finalement, la population est aïcha. C'est ce que nous craignons, directeur. Nous craignons qu'on arrive à des mesures, il n'y a qu'à soumboua raïa davantage au moment où la population de l'Est, la population du Sud Kivu, a beaucoup souffert. Voilà pourquoi j'appelle tout le monde qui nous écoute. Dans des églises, les responsables des églises, je vois les prêtres, les pasteurs, les médias, les faiseurs d'opinion, tout le monde partout où il est, même les parents dans leur famille. Chacun devrait prendre sensibiliser la population en lui disant « Faites attention, il y a un virus qui circule et si nous ne prenons pas des mesures afférentes, on risque de vivre le pire. » Si du moins demain, banasem banafunga na manganda, là où les gens, on a usé chupa moya pour que ils s'aident, batoto kuba somesha ainsi de suite, on a usé ça. Là où banafunga kesho, ça sera grave. Et pour les gens qui vivent à Kishasa, où on a piga mikolo. Je voulais dire d'ailleurs que peut-être, baliati le virus à Ituri comme c'est à l'est, pour que Twitch. Ça c'est mon analyse. C'est mon analyse parce qu'on ne comprend pas comment une entité gérée par le gouvernement national. Virus est circulé pendant plus de mois.
Merci.
Et que personne ne parvienne à détecter qu'il est virus, il quoi. Et voilà. Aujourd'hui, nous voyons les conséquences.
Maître Maurice.
Vraiment, mon gars, mieux peuple congolais.
Maître Maurice, je crois que la seule mesure que l'on devait appliquer, nous tous, c'est de se laver régulièrement
les mains,
avec du savon, d'acheter les gels désinfectants, éviter les contacts avec des gens. Et au fur et à mesure, au bout de 3 mois, le virus va disparaître. Mais quand on arrive jusqu'à fermer les frontières, à interdire certaines activités, est-ce que vous ne pensez pas que ça serait trop trop grave et la vie de la population risque d'être en danger davantage?
Oui, Thaïs, la vie de la population est déjà en danger. Comme vous le savez, avec d'abord la guerre que nous subissons actuellement, la vie a été en danger. Avec la guerre au Moyen-Orient, ça a encore renforcé. Avec encore Ebola, c'est plus grave. Moi, je suis en train de me poser des questions. Je suis en train même de voir les difficultés qu'auront aussi les autorités actuelles. Parce que Thaïs, c'est un peu difficile. Nous, tout le monde, deux jours, trois jours à couler. Ou m'a dit à quoi gelé, à quoi nanine. En fait, moi, je trouve ça difficile.
Et ça coûte cher maintenant, hein, sur le marché.
Je trouve ça difficile.
Parce qu'il y a tout un gérésa qui a.
Parce que pour que nous, toi, pour que nous, toi, fiquez au coup, ça y gèle, moi, tu prends ça chacun. Maintenant, on fait le choix. Dans une famille à 10 personnes, nous, on a coulé difficilement. Les gens font des tours pour manger. Je suis en bien, non, qu'il y a un peu de gel. En tout cas, c'est très difficile. C'est vrai, on va sensibiliser, mais le contexte est tout comme très particulier. Très très particulier, au point que bon, qu'on fasse qu'on va qu'on a supposé que virus haïko, pas parce qu'il va donc pas parce qu'il va courir moi, mais parce qu'ils sont dans des conditions très difficiles que même ils vont imaginer virus et nous à courir. Et cela fera que haïta rendre tâche facile et à nous qui sensibilisons par rapport à la protection et tout ce qui est des mesures barrières. Parce que on a fermé les frontières, c'est vrai, il y aura encore des impacts très très négatifs. Sur la vie quotidienne de la population, et comme vous l'avez dit, monsieur, par exemple, le Rwanda est le fond de la Juanine. Toutes les fois qu'on traverse au Rwanda, on se lave les mains, en fait, est-ce que ces appareils qu'on nommait, j'ai vu la fois passée, moi, quand j'allais au CICR, j'ai vu, on m'a fait des examens pareils, et donc, moi, je pense au niveau des autorités, le prochain jour, renforcer les mesures. Le dimanche passé, on était ici avec les maires, sous la FM23, je lui avais dit, et il m'avait rassuré qu'ils avaient déjà contacté les églises. Mais jusque-là, pour moi, je ne vois pas vraiment des mesures prises dans nos églises par rapport à tout ce qui est des mesures barrières. On peut, c'est vrai, prendre des mesures tout à fond, tout à fait, mais lorsqu'on néglige d'autres secteurs, c'est là qu'on peut occasionner la contamination facilement, alors que ça serait très facile de le faire. Donc moi, je pense, c'est vrai, contexte est très difficile, mais on devrait réfléchir au-delà de la sensibilisation, comment quand même laisser cette population vaquer librement à ses occupations. Et aussi, Thaïs, rassurez-vous, la réalité de la ville n'est pas la réalité des périphéries. C'est vrai, on peut prendre la question au sérieux ici, mais peut-être là-bas, ça ne sera pas au sérieux.
Et parce que si le virus a commencé à Luiro, à Kahungu, c'est au village.
Voilà.
C'est pas dans la ville.
C'est pas dans la ville.
Et là, il n'y a pas beaucoup de gens, curieusement. Et ici, en ville, où il y a beaucoup de gens, bon... Jusque-là, il y a des cas supposés qui sont en plein examen dans des laboratoires, mais dans la ville de Bukavu, jusque-là, il n'y a pas de cas. Bon, c'est pas à négliger,
en fait,
parce
que,
l'homme qui a mené le virus vers Kahungu, certainement qu'il est passé par la ville de Bukavu.
Est-ce qu'il n'a pas salué des gens? Est-ce qu'il n'a pas contacté des gens? Et donc, on peut beau dire que la ville n'est pas encore touchée, à moins ça critiquer le gouvernement montrant qu'on a pris un mois.
Tu trouves ça normal?
Non, laissez-moi parler. On a pris un mois. C'est vrai, on n'a pas encore un cas à Bukavu. Peut-être qu'on en aura après deux semaines. Lorsqu'on en aura après deux semaines, on supposera qu'on a veillé ça avant. En fait, je ne sais pas si je me fais comprendre.
Parce que et donc, le laboratoire n'a pas... Oui. C'est tous les jours qu'il y a des échantillons qu'on amène à Goma. Un rapport peut tomber ce soir ou demain.
Voilà.
On ne sait jamais.
Parce que la personne... qui a été frappé, a eu des contacts avec d'autres. Et je ne sais pas si vraiment on a développé des mécanismes pour faire le suivi comme on l'avait fait à l'époque. On a vu les gens aller à Mwenga chercher des gens, ainsi de suite. Donc moi, je crains aussi pour la ville de Bukavu. Je crains également pour cette population qui est dans une misérabilité très, très, très difficile, très, très, très exagérée, et à pouvoir, en tout cas, être à même de respecter tout ce qui est comme mesure pendant ces moments. Et donc, j'ai vraiment peur et voilà, on ne sait pas.
En fait. Voilà. Merci, Daniel. Rula, vous êtes aussi dans ce studio. Votre point de vue, avant que l'on parle politique.
Merci beaucoup, Thaïs. Moi, je pense qu'actuellement, j'ai déjà considéré les propos d'Amos Bissima comme un chapelet. À chaque fois qu'on va à Amos, je vous salue, Marie. Autrement dit, les propos sont restés les mêmes. Nous sommes en face d'une situation où on ne devrait pas commencer à se condamner. Parce qu'en principe, dans l'analyse systémique, il ne faut pas dissocier les composantes d'un système. Autrement dit, les autorités ont les responsabilités au niveau de Kinshasa. Les autorités au niveau provincial, ici, ceux qui nous gèrent, l'AFCM23, ont les responsabilités parce qu'à Goma, il y a déjà ce virus. Au site qui vont, nous avons les cas été détectés au niveau de l'Uiro. Là, c'est sous l'administration de l'AFCM23. Et nous, comme population, nous avons aussi des responsabilités. Mais il y a un principe, M. Thaïs, dans les cours de gestion des risques sanitaires et environnementaux que je dispense en bac et environnement, nous nous disons, il y a ce qu'on appelle l'acceptabilité des risques. Ce n'est pas qu'on ignore l'existence du risque, mais parfois on se dit, les banques sont fermées, nous sommes dans une zone cloisonnée, on ne sait pas aller à Uvira, on ne sait pas aller au Rwanda, on ne sait pas aller à Chabunda, on ne sait pas aller à Mwenga, on n'a pas accès à XY, on ne sait pas aller non plus en Europe. À quoi bon mourir chez moi, alors que j'ai la possibilité d'aller au marché de Nyamugo, j'ai la possibilité d'aller travailler dans des chantiers, le dimanche souvent comme aujourd'hui on doit bétonner, pour avoir à manger. Mais je crois à ce niveau, vous savez qu'aujourd'hui nous dépendons plus de l'extérieur. Parce qu'il y a chaque fois, il y a ces principes, on dit que notre économie c'est une économie extravertie. Les Rwandais, les gens étaient tellement, vous savez qu'il y avait il y a une semaine, deux, trois semaines, les taux de retrait étaient de 3%. Mais hier moi j'ai retiré à 6%. Wow. Autrement dit, ils ont dit, nous nous faisons des transactions ici, mais les retraits c'est...
Oui, le
c'est
cash,
le Rwanda pour avoir le cash.
Le cash,
on c'est part Rwanda. Au Rwanda, on retire à 2%, mais dès lors que c'est fermé, parce que si ça persiste, dans 3 semaines, on n'aura plus la liquidité sur les marchés. Et ça aura des conséquences sur le vécu quotidien de la population du Sud Kivu. Si jamais il n'y a pas de mesure. Malheureusement, c'est pas. Est-ce que les principes au niveau international, est-ce qu'un régime considéré jadis rebelle peut avoir des collaborations bilatérales avec un État? Parce qu'en principe, si l'État congolais était là, on avait un ambassadeur au Rwanda, il y aurait des échanges entre les deux pays pour voir comment est-ce qu'on va assouplir les mesures barrières qui ont été prises par les pays voisins. On ne sait pas aller non plus à l'Ouganda. On ne sait pas non plus aller au Rwanda. Alors que nous dépendons de tout ça. Nous vivons presque de ces deux pays. Nous avons eu l'occasion peut-être de participer dans des colloques, là où on parle de commerce transfrontalier. Il faut voir en termes d'échange ce que nous nous importons par rapport à ce qu'on exporte dans les pays voisins. Les femmes qui traversent matin, midi, soir pour amener des tomates, pour amener des amarantes, pour amener des beignets, pour amener des légumes. Autrement dit, il y aura même carence sur le marché des légumes. Et c'est qu'il y aura une conséquence sur les paniers de la ménagère. Les moyens de transport, parce que les taxis, les bus qui transportent les gens, les mouvements vers la frontière et d'autres axes de la ville de Bukavu, tous ces gens seront au chômage. Et la conséquence, c'est quoi? Il y a d'autres qui vont intégrer encore les groupes armés, il y a d'autres qui vont prendre les armes, il y a d'autres qui vont dire à l'eau condensée au marché de Kadout, ce qui peut encore renforcer les risques de propagation de la maladie. Et là, je me dis, est-ce que les comités de crise de cette maladie, de ce virus, est-ce qu'ils devraient seulement se limiter aux seuls médecins? Je pense qu'il fallait mettre en place un comité multidisciplinaire où il y a des économistes qui réfléchissent. Oui, vous dites ça, mais quelle est la conséquence économique? Il y a des psychologues qui réfléchissent. Si vous dites ça, la population sera traumatisée. Les médias doivent être associés. Les églises doivent être associées à ce niveau. Parce que pour les médecins, il faut seulement un traitement curatif. Et ils décident des mesures draconiennes. On fait ça, on arrête. Pour arrêter la propagation de ces virus. Donc j'estime qu'à ce niveau, la population, nous et vous, Thaïs, nous sommes en ce studio. Moi, je viens de l'église. Mais j'ai vu Moutou Rassou Mpati, Mouna Kripson Agatha, Lana Sabouka, Mouna Banana Naïve. On dirait que le virus, la propagation, la transmission de ce virus, ni comme qu'on tout. Voilà que à l'église, nous continuons toujours à entrer Maïl et Il. Nous voyons les manifestations, même l'équipe Tech Force n'a dit rien. Ah oui, qu'on va l'en avoir ma cachine. Donc tu vois, c'est tout un tout qui nécessite toutes les intelligences sans pour autant condamner qui que ce soit. Parce que nous qui sommes ici, on ne peut pas aller commencer à jeter les pierres sur le régime de Kinshasa. Nous sommes là avec l'administration AMC M23. Autrement dit, toutes les recommandations données, on ne va pas les envoyer à Kinshasa, on va les adresser à ceux qui sont ici. Ils ont un gouverneur, ils ont les différents services. Qu'est-ce que ces services font comme mesure? Est-ce que ces services peuvent collaborer avec les services, donc les pays voisins, les Rwanda, pour voir comment est-ce que c'est possible d'avoir c'est acceptable sur le plan international? Si le régime qui est là peut collaborer avec les Rwanda pour montrer comment pouvons-nous au moins à notre niveau, parce qu'il y aura des préalables. Les Rwandais peuvent aussi exiger. À votre niveau, nous avons juste compris que collégialité à Ming. Est-ce qu'ils pouvaient faire A, B, C, D? Comme ils ont déjà cette expérience, et c'est un pays modèle qu'on peut prendre modèle, c'est un pôle de développement qu'on peut considérer qu'il y a des avancées, parce que nous n'avons plus les mêmes priorités. Aussi longtemps que nous réfléchissons sur la paix,
Le Rwanda, la paix, c'est plus une question. Aussi longtemps que nous réfléchissons...
Mais Daniel, dans tous les forums, l'AFCM 23 n'a jamais accepté qu'elle collabore avec le Rwanda. Sinon, ça serait du tic au tac. Mais s'il y avait cette collaboration entre l'AFC et le Rwanda, on devait normalement assouplir cette mesure. Sinon, la mesure de fermer la frontière entre la RDC et le Rwanda, d'ici la semaine prochaine, il y aura des conséquences graves sur le retrait d'argent.
Oui.
Parce que le cash, même la baie de gel, ce n'est pas un secret. La Bralima, l'ancienne Bralima, dépose son argent là-bas. C'est là où
le
même ceux qui ont des cartes Visa,
voilà.
Nous avons des comptes dans des banques internationales. Si, on traverse Rwanda pour les tirer.
Si la banque est fermée, si la frontière est fermée, comment ça va se passer? La Bralima Bukavu qui ne sait plus fabriquer certaines bières. Pourtant, vous allez comprendre que le Rwanda nous a fortement aidés avec le produit Brascol, je crois. Et l'Ouganda, que l'on consommait, parce que ça a diminué avec l'arrivée de la Bralima. Mais maintenant, comme on a Ebola, la Bralima qui ne sait plus fabriquer, qui ne sera plus fabriquée, et la bière ne sera plus quitter le Rwanda pour venir ici, parce que les bombes, si vous allez à la frontière, les bombes ont diminué sensiblement, il n'y a plus de gens là-bas. Alors comment ça va se passer? Même les sapilos que vous prenez, ça vient
Les gens déjà du mouvement citoyen. Thaïs, je m'excuse pour ça. Ce n'est pas seulement ce niveau. Vous savez qu'il y a des services sanitaires auxquels nous dépendons avec le Rwanda. Même pour traverser, j'ai un ami qui m'appelait hier, il voulait amener son papa aux soins médicaux à Kigali. On dit que ces personnes doivent être d'abord mises en quarantaine pendant 21 jours. Donc il y a plusieurs risques. Thaïs, dans 3 semaines, rentrons sur ce studio ici. La population va accepter. Tout à coup, ça veut dire populaire dans le peuple, il y a Israël, il y a Djoukta, il y a Mujangwa. On n'aura pas le choix. Parce que c'est une amelle. Troisième lac, il y a la guerre. Les frontières sont formées. Donc, tu vois ça, Moulia Issaï. Après les 10 semaines, la liquidité qui est sur les marchés, mais aussi certains produits, parce que les commerçants non plus ne savent plus voyager pour aller en Chine. Les commerçants ne savent plus non plus voyager pour aller en Ouganda, même pour avoir les passeports. Et d'autres services sont dépendants directement de Kinshasa. Mais le problème va s'aggraver après une semaine, 10 semaines. Et voilà pourquoi je dis en principe. Je l'ai dit. Donc l'administration en place, nous devons nous adresser à cette administration. Il faut aussi amalgamer en Mons. Adressons-nous à ceux qui sont là. Qu'ils développent des mécanismes de collaboration diplomatique avec les pays voisins, qui est le Rwanda, et voir comment est-ce qu'on peut assouplir à ces mesures-là. Batoua tchè frontière tout vous qui Thaïs.
Mais tu observes ma mesure barrière.
Tu observes ma mesure barrière, tous ces bakachinés.
Non, on a dit que pour Ebola, il n'y a pas besoin de cache-nez, mais il suffit seulement de se laver les mains et respecter la distanciation.
$10, on peut nous cotiser nous-mêmes tout récemment pour quand même tout respecter les mesures qu'il a nous-mêmes usées. N'a qu'il a frontière qu'il a face après 2 minutes transitif. Si tout le monde va faire pas là-bas. Autrement dit, pour acheter des lave-mains, acheter des savons, les gels, c'est moins cher que ce qui génère la province du Sud Kivu sous l'administration l'AFC M23. Et donc, nous devons éviter dans ces débats de citer Kinshasa. Considérons que nous sommes avec ceux qui détiennent le pouvoir, qui sont là, c'est à eux qu'on doit s'adresser. Nabati Makouta Angers, ils ont de l'argent. Au-delà,
l'argent va où?
Au-delà, il y a OMS. Banalipisha ma taxe. Banalipisha frontière. Parce que la frontière est fermée, mais on fait des achats à ligne. Et il y a des déclarations douanières qui se réalisent chaque jour. Nous payons des taxes. On ne lit pas des GI, ceux qui ont des maisons. Donc cet argent, en principe, au niveau de leur mouvement, il fallait qu'il y ait un décaissement d'un fonds de crise. Bah, sinon, à l'extérieur, c'est avec ces fonds qu'on peut quand même essayer de réduire ma risque au lieu d'exposer la population. Parce que la population, quelle que soit l'idée là dit, la conjoncture économique va nous imposer à ne pas respecter, et ça je dis, c'est l'acceptabilité des risques. Je sais que Nigigou ça a une moto, mais pas une coupe Fenanjala, mais Nigigou c'est le moto.
Merci, Debakolo.
Bon, nous sommes dans une crise d'une ampleur presque continentale. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, il y aura des collaborations entre les pays. C'est vrai que certains commencent à fermer les frontières. Ils l'ont fait.
J'espère que la situation va évoluer et que nous allons faire certains compromis avec nos voisins. Le vrai problème de cette maladie ici, de ce virus, c'est qu'il a été négligé au départ. Ça s'est dit. On a détecté, on a parlé du virus après avoir tué plusieurs personnes.
Oui.
Entre le jour que la première personne est morte, c'est la personne qu'on avait amenée à l'hôpital en Ouganda, morte là-bas, rentrée au Congo, avec tout ce qu'il y a comme manipulation des corps, consorts, tout ce qu'il y a eu comme enterrement, les gens sont morts sérieusement. Et c'est après un mois, les gens sont en train de mourir, que l'on a finalement déclaré
le virus.
Déjà, on aurait pu, à l'époque, on aurait pu stopper ou alors ralentir les mouvements de contamination si on avait pris ce virus en charge. Aujourd'hui, moi j'ai un ami avec lequel j'ai étudié à l'UCB, qui travaille dans le gouvernement ougandais. J'ai eu une conversation avec lui, mais il faut voir comment ces gens, il faut voir comment ils nous jettent les pierres. Comment ils disent que nous sommes vraiment irresponsables? Il faut voir aujourd'hui.
Déjà défendre du n'importe quoi.
Non, c'est pas qu'on défend du n'importe quoi, parce que Mourou l'a dit, a dit une chose claire. Pour les mesures barrières ici, à Bukavu, dans la zone contrôlée par la FCM23, c'est absolument la FCM23 qui est à 100% responsable.
Comme un homme qui est à Rwanda,
Ils doivent le faire. Une autre chose que je voudrais quand même souligner, c'est que effectivement dans le task force qui a été mise en place pour lutter contre la propagation de ces virus ici, il n'y a pas que deux médecins.
Oui,
c'est les médecins. D'ailleurs, les virus ici, la médecine c'est le dernier, donc. C'est la dernière étape. La médecine, c'est la dernière étape. Toutes les étapes avant, ce sont les communautés. Et effectivement, il faut tenir compte de tout ce qu'on est en train de dire. Ici, l'économie, ça va avoir des problèmes très sérieux.
Tout à fait.
Très, très sérieux. Nous devons être conséquents. Et le gouverneur de province, avec toutes les autres autorités qui sont concernées par cette situation d'urgence qui nous arrive, doivent prendre en compte toutes les possibilités dans le task force là. Ils doivent prendre en compte toutes les compétences. C'est vraiment transversal. Ça touche sur tous les aspects de la vie, que ce soit les gens, non, surtout les leaders communautaires. C'est surtout au niveau communautaire qu'il faut le plus jouer. D'accord. Parce que si au niveau communautaire ça va, ça va bien lutter contre la propagation.
Voilà, espérons que ça va, ça sera résolu. Mais bon, Daniel Mouroula, je crois qu'il a dit en tout cas la vérité. Nous devons poser la question à ceux-là qui nous gèrent actuellement.
On ne fisse pas, mais il y a un mot ajouté.
Mais on ne sait pas aussi, les amis de la FCM23, comment ils organisent leur administration.
Tout à fait.
Peut-être que on n'a pas le courage de le dire, mais tous les trois bourgmestres sont aux arrêts depuis un temps. Depuis
3 mois.
Il n'y a que des intérimaires avec un pouvoir limité.
Très limité.
Si on a constaté que les trois bourgmestres ont failli à leur mission, alors, qu'on confirme ceux qui sont là. Qu'on nomme des responsables, comme ça ils s'occupent.
Ils s'occupent.
Je crois que ceux qui sont là sont des gens compétents qui peuvent assumer et qui les responsabilités. Bon, comme ça, l'administration elle est continuelle. Hein, mais quand on est dans une situation d'intérim.
Il y a des mesures qu'on ne sait pas prendre.
Pourtant, nous sommes devant une urgence sanitaire et nous devons être en face des autorités vraiment qui sont là. Et puis, bon, c'est vrai, vous pouvez parler de la task force, mais est-ce qu'elle s'étend jusque dans les quartiers?
Non, c'est au niveau de la base.
Peut-être qu'il y a des task force au niveau de la province, mais est-ce qu'au niveau de Nyamugo, on sait, au niveau de Panzi, au niveau des marchés de Chimanzi, est-ce qu'à Loakaviri, on connaît la task force? Je crois que vous, comme Amos, vous devriez vous retrouver dans le Daniel Mourola ou dans des universités, des écoles, vous devriez vous retrouver dans les task force.
Il y a un aspect environnemental que nous ignorons. Parce qu'on peut arrêter ou demander aux gens de ne pas traverser. Nous avons des ressources transfrontalières qu'on partage. Je prends l'exemple des parcs de Virunga.
Et les lacs aussi.
Et les lacs. Et les oiseaux. Vous allez demander aussi de barrer les oiseaux, que les oiseaux ne traversent pas du côté rwandais pour aller au côté congolais, du côté congolais pour aller.
Ils ont compris avant.
Les animaux du parc des Virunga. Donc, c'est toute cette question-là qui nécessite des réflexions. Et quittons nos casquettes politiques pour réfléchir des questions de la société. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? À qui est-ce qu'on s'adresse?
C'est ça justement. Quand on réfléchit au niveau de la commune de Banda, faut pas penser que...
Oui, la ville se limite pas seulement.
La ville, oui. Le gros, je crois, de la population, c'est dans la commune de Bagira.
Oui,
si vous regardez les statistiques. Et donc, que s'il s'agit de task force, il faut poser des questions. Genre, avant de prendre des mesures, il faut qu'on d'accoule ma chimpunda coule.
Nous ne sommes pas notre première expérience de la province du Sud-Kivu.
COVID.
Dans la province du Sud-Kivu, on a sévèrement lutté contre COVID. Et même contre Ebola. Donc, nous ne sommes pas à notre première expérience. Je pense que les autorités actuelles devraient se ressourcer auprès de... comme individu, mais pas comme institution.
Pas comme institution.
Comme institution, nous ne sommes pas à notre première expérience. Il est vrai que nous avons des sérieux problèmes. C'est peut-être aussi une des faiblesses, comme on a toujours dit, du mouvement, c'est que l'administration n'est pas mise en place. L'administration, c'est le nœud. C'est la colonne vertébrale d'une gouvernance. Et si, on ne sait pas si au niveau de la santé, au niveau de la division provinciale de la santé, au niveau de l'inspection, on ne sait pas aujourd'hui si ça fonctionne. Toutes les divisions des affaires sociales, des affaires humanitaires, ça ne fonctionne
en
pas.
Berne.
Ça ne fonctionne pas. Pourtant, ce sont des institutions hyper importantes dans la lutte contre ce que nous sommes en train de dire ici. Ce qui est vrai, une task force qui ne prend pas en compte les chefs de quartier, les chefs d'avenue, dans le cas d'espace...
Les chefs de confession religieuse.
Ça n'est pas une.
Média.
Hein?
On ne connaît pas comment c'est organisé.
Est-ce que le bureau de coordination de la société civile est informé?
Alors, j'avais insisté qu'on ne devait pas organiser cette task force sans qu'il y ait toutes les responsables de confessions religieuses, mouvements citoyens, société civile, les gens des transporteurs.
Des transporteurs,
les responsables des marchés, les Nyumbakumi, tout le monde devrait y être pour qu'on réfléchisse par rapport aux mesures qui doivent être prises pour faire face à ces virus. Je voudrais dire par rapport à ce que Dani a dit, vous l'avez présenté comme étant un indépendant, mais je comprends sa casquette. J'ai parlé de l'épicentre de ces virus. Les gens doivent éviter les sentiments inutiles au studio. L'épicentre, c'était en Ituri. Au niveau international, ça s'est dit. L'épicentre, c'était en Ituri. Et il y a eu des faillances de nos autorités à lutter contre ce virus à temps. Et aujourd'hui, nous tous, au niveau des conséquences, malheureusement, lui, avec sa casquette politique, il ne veut pas comprendre que l'Ituri, c'était l'épicentre. Si aujourd'hui, on a des cas à Bukavu, on a des cas à Goma, en Ouganda, partout. C'était à cause de l'irresponsabilité de nos dirigeants en Ituri.
Revenons à Bukavu, justement. Merci beaucoup. Revenons à Bukavu, où nous avons des problèmes.
Oui, tout à fait.
Et que des mesures peuvent tomber demain après-demain. C'est ce que nous sommes en train de demander aux autorités qui sont en train de nous suivre, c'est d'associer Valéba Motard.
Associer
société civile. Même si nous sommes dans le cadre de la révolution, mais. On connaît
les vrais
acteurs.
Même
les vrais faiseurs d'opinion sont connus.
Pour organiser des trucs ici, je crois qu'Amos et les autres ici connaissent comment comment ça peut réussir et comment ça peut échouer. Et donc,
il faut mettre l'argent en circulation. C'est ça qu'il faut dire aussi, la vérité.
On se souvient comment on a lutté contre le Covid.
Ça signifie que, avant de prendre des mesures, monsieur le maire, il faut poser la question également aux opérateurs économiques qui peuvent vous donner des éléments importants.
Et des stratégies.
Au sein de Kamata, ma mesure, les aînés, que je suis là, que Zitale Tachi dans Mungini. Bale ba churuzi ya bichi mwanzi, ya kadutu, bale ba nyawera, banapasha yua, batu ya bagira kule, bale ba chimpe kule, banayua, batu ya panzi, batu ya lokaviri, banapasha yua. Donc, c'est ça la task force selon nous.
Tout à fait.
Mais si on n'arrive pas à contacter ces gens là-bas, et penser que, on est dans son bureau, on prend seulement des mesures, il y a des mesures qui ne peuvent pas être appliquées ou on va livrer la population à des tracasseries policières. Parce que quand l'autorité prend des mesures, c'est la police qui exécute. C'est comme à un certain moment, lors du Salongo, on voyait que les gens étaient tracassés parfois. Mais il faut conscientiser les gens, il faut que les gens sachent que le Salongo, c'est une obligation. C'est bien qu'ils doivent le faire.
Ils doivent s'approprier.
Oui, ils doivent s'approprier. Et ça prend du temps. Et donc, ils ne font pas prendre des mesures draconiennes qui peuvent
qui s'imposent sans impact sur terrain.
Voilà. Et ce que nous sommes en train encore de demander, c'est de contacter les pays voisins, montrer que la fermeture de la frontière, ça ne règle rien. Plutôt, il faut que de notre côté, nous puissions prendre des mesures,
faciliter, sensibiliser
ces appareils là-bas pour prendre la température des gens. Oui. On sent que nous sommes organisés.
Sans tracasserie.
Oui, voilà. Ça peut-être vous prendre un peu de temps à la frontière, mais que les gens quand même circulent de part et d'autre, parce que les gens logent leur argent dans des banques là-bas. Les gens ont des courriers, les gens ont des membres de famille. Il y a même des Congolais qui passent, qui dorment là-bas, qui logent le roi à Kamembe. Mais maintenant, quand on ferme la frontière comme ça,
c'est compliqué.
C'est compliqué. Donc,
nous, à Kinshasa, aujourd'hui, aller à Uvira. Voilà. C'est par là où on passe.
Et je crois que les Rwandais aussi ont tout intérêt. Pour ceux-là qui ont déjà pris l'avion au niveau de Kamembe, vous allez constater que le gros des passagers qui prennent les avions,
les taxis.
Alors,
le vrai problème, c'est que le Rwanda estime que nous sommes irresponsables. Le vrai problème en Ouganda, les Ougandais aujourd'hui estiment que nous sommes irresponsables.
Nous ou le gouvernement qui nous aime.
Bon, quand je dis nous, c'est nous. C'est tout, ça veut dire quoi?
Ils ne mentent pas.
Oui, mais c'est ça. C'est effectivement cela. Donc, on considère que nous sommes vraiment irresponsables.
C'est connu.
Qu'on ne prend pas les choses.
C'est connu que nous sommes
irresponsables. On ne prend pas les choses au sérieux ici. Alors, eux disent non, nous devons nous prémunir contre.
Comment c'est quoi ma mesure?
Ma mesure. C'est ça.
Vous avez évoqué.
Donc, c'est à nous de rassurer.
Un Ouganda qui est venu de l'Ituri.
C'est à nous de rassurer.
Oui, c'est à nous de rassurer. C'est à nous de rassurer, montrer au monde que nous sommes vraiment.
Organisés.
Vous savez que nous avons été très très pris en moins sérieux avec ce que Mouyemba avait dit. La prise en compte, la prise en charge très tardive du virus. Plus de 47 jours après. 47 jours, c'est
vraiment. Voilà.
47 jours après. Donc,
voilà. Barnabé, nous allons terminer par vous.
Tout à fait, votre honneur, en tout cas par rapport à cette thématique. En tout cas, c'est très intéressant. Nous le disons ici aux médias. Mais pratiquement, ça va créer des conséquences. En tout cas, nous voudrions proposer aux autorités actuelles de procéder par la sensibilisation. Il faut d'abord qu'on intériorise. Il faut que la population sache réellement que cette maladie, c'est un danger encore une fois. Après ça, maintenant, c'est le moment maintenant de prendre quelques mesures qui ne vont pas tracasser encore une fois la population. Alors, Idé Bakulu a dit par rapport chez Bondeko là. Hein? Maintenant, si vous pensez que pour entrer chez Bondeko, il faut se laver, ok, ça va. Hein? Au lieu de prendre des mesures, comme vous venez de le dire, qui vont créer des conséquences après et par la fin, et surtout que nous sommes en train de vivre la crise. Hein? La crise non seulement sécuritaire, mais aussi sur le plan finance et économie, ça ne va pas. En tout cas, nous demandons aux autorités que nous respections les mesures qui seront prises, mais il faut que que ce soit des mesures
concertées.
Merci
beaucoup. Malgré le boycott des députés de l'opposition, l'Assemblée nationale a approuvé mercredi 27 mai, sous réserve d'amendements, les conclusions du rapport de la proposition de loi relative à l'organisation du référendum en RDC, portée par les députés Paul Gaspard et Ngondankoy. Cette réforme vise à remplacer la loi de 2005, jugée dépassée, afin de redéfinir les cadres juridiques des consultations populaires. Déclarée recevable le 30 avril dernier, cette proposition de loi franchit une nouvelle étape. Selon les textes, la décision de convoquer un référendum revient exclusivement au président de la République par ordonnance présidentielle. Le scrutin est organisé par la Commission électorale nationale indépendante, CENI. En cas de dysfonctionnement majeur des institutions, le chef de l'État peut mettre en place une commission nationale multidisciplinaire pour identifier les dispositions constitutionnelles inadaptées. Si une majorité se prononce pour les changements des règles proposées, le président de la République soumet un projet de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Assemblée constituante. Ce projet doit être adopté à la majorité des 3/5 de membres de cette Assemblée constituante avant d'être soumis à la consultation populaire. En cas de rejet par le peuple, la Constitution en vigueur reste inchangée. Cet organe limitera sa mission à l'examen et à l'adoption des règles identifiées pour une durée de 30 jours au maximum. Les députés disposent de 24 heures pour déposer leurs amendements. La commission politique, administrative et juridique PAJ, dirigée par le député André Mbata, bénéficie de 48 heures pour les intégrer avant l'adoption finale du texte. Réagissant au retrait des députés de l'opposition du groupe parlementaire Ensemble pour la République, le président de l'Assemblée nationale appelle au maintien de la sérénité au sein de l'hémicycle. Aimé Bodhisangara indique que la Chambre basse du Parlement poursuit sa mission de législation dans le calme. Selon lui, cette proposition de loi vise à doter les souverains primaires d'un cadre juridique clair pour se prononcer démocratiquement sur l'avenir de la nation. Et les députés, vous l'avez lu dans les réseaux sociaux, que ce soit le président de l'Assemblée nationale, Aimé Bodhi, que ce soit les élus nationaux du Sud Kivu, en tout cas, ils reçoivent des critiques dans les réseaux sociaux. La population, certains citoyens estiment que ce n'est pas ça la priorité pour la République démocratique du Congo. Les députés devaient plutôt s'atteler à interpeller le gouvernement afin que les négociations reprennent pour que le pays soit réunifié. L'urgence serait aussi cette question du virus Ebola. Mais bon, les électeurs des députés estiment que, voilà, une fois à Kinshasa, la population est oubliée et on ne suit que le mot d'ordre de la plateforme qui est au pouvoir. Voilà, nous allons d'abord donner la parole à Maître Maurice Mirindi. Vous allez vous rappeler, nous sommes au troisième dimanche en train de parler de cette proposition de loi. Il faut dire que à l'époque, quand nous avons commencé, cette proposition de loi avait plusieurs articles. Il y en avait 93. Maintenant, lors du toilettage à la commission PAJ, on est rentré, je crois,
34.
Voilà, donc plusieurs articles ont été élagués. Et en tout cas, en lisant le premier texte, on se rend compte que celui qui avait proposé le professeur, comment on l'appelle encore,
Ngondankoy et Alonga.
En tout cas, il avait donné des propositions qui pouvaient, et c'est ce qui a fait d'ailleurs qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on puisse juger recevables les textes. Mais maintenant, le texte qui a été amendé, on sent que toute la substance a été vidée et les députés nationaux, en tout cas, ont taillé la loi
sur mesure.
Maître Maurice, je ne sais pas, vous avez lu, vous pouvez nous donner quelques explications.
Oui, Thaïs, en fait, c'est C'est un peu décevant, parce que les textes que nous avons, et les textes que Paul Gaspard avait proposés, c'est le jour et la nuit. Ici, les députés se sont beaucoup plus protégés. Paul Gaspard était un peu réfléchi, c'est-à-dire, moi je l'ai dit, les gens ne me croyaient pas, mais j'ai dit que non, la proposition était passable. Ce que Ngondankoï avait proposé, parce que Ngondankoï lui-même avait verrouillé sa démarche à travers son article 86.
Tout à fait.
Où il comprenait que ça ne serait pas facile de procéder au référendum pendant ces moments. Mais tout de même, il a émis l'idée, mais il faudrait peut-être qu'on ait dans une situation normale pour qu'on puisse parfaire à ses devoirs. Cet article a été écarté par les députés. Donc, pour les députés, on peut organiser les référendums même pendant ces moments. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, Paul Gaspard Ngondankoï, dans sa proposition, a fait allusion à une assemblée constituante qui devrait normalement être élue pour pouvoir statuer sur la nouvelle constitution. Et là, l'Assemblée nationale devrait être ajournée.
Mais ben, maintenant, tu peux tirer le pouvoir.
Les députés ont dit que ce pouvoir leur revient automatiquement. Et donc, il n'y aura pas d'autre assemblée constituante que celle qui est maintenant. Voyez-vous, Paul Gaspard Ngondankoï proposait également, Thaïs, entre autres, que lors du référendum, si les non remportent, on ne pourra revenir encore à un autre référendum qu'après 30 ans. Les députés ont réduit ça à 5 ans. Donc pour eux, si jamais on va aux élections référendaires, donc les élections consultatives comme on l'a dit, si la population vote contre, dans 5 ans, on peut encore organiser notre référendum. Voyez-vous. Et donc, ce que les députés ont fait, c'est juste pour se protéger par rapport à ce que Ngondankoï avait proposé. Et donc, moi, quand j'ai dit ça, les gens commençaient à m'intéresser, mais j'ai dit non, en fait, c'est une démarche constitutionnelle. Tout le monde est libre de réfléchir, de mettre ses idées par rapport à ce que traverse le pays. Mais il y a des moments pendant lesquels on doit émettre certaines réflexions. Et comme vous le savez, Thaïs, nous sommes dans une situation très particulière. La priorité devrait d'abord être le retour de la paix. Et s'il y a des réflexions autour de la concession, tant mieux. Mais on ne peut pas être dans la guerre et réfléchir aux constitutions. C'était ça. Même les bureaux de coordination s'étaient prononcés par rapport à ça. Je crois à moi, c'était aussi là, au mois de décembre. On est resté dans la même logique. On est légaliste. S'il y a des réflexions qui se font, dans les normes constitutionnelles, on n'a pas à s'y opposer. Mais lorsque ça s'est fait en dehors des normes constitutionnelles, on doit s'opposer. Et donc, moi, ce que j'ai dit, je l'ai dit, il y a un membre du M23 qui était aussi dans ce studio qui ne m'avait pas compris, mais moi, j'ai dit, Ngondankoï était de bonne foi. J'ai dit ceci, il était de bonne foi. Peut-être on va se poser la question par rapport à l'opportunité de sa démarche, mais il était de bonne foi. Maintenant, ce que la commission PAJ a fait, dans laquelle il y a un élu du site qui vous, c'est autre chose. Parce que quand vous lisez ce truc, Thaïs, c'est presque vite. C'est presque vide. Il n'y a que 3-4 articles qui renforcent le pouvoir des députés. Donc, les députés, ils font en sorte que Boy est toujours à Baki. C'est ce qu'on a fait dans cette
proposition.
Bon, c'est vous qui le dites. Alors, moi, personnellement, c'est vraiment avec une très grande déception que j'ai lu cette proposition par rapport à celle proposée par Ngondankoï. Et l'autre fois, je le disais, peut-être qu'on ne me croyait pas, mais j'ai dit non, non, Ngondankoï a réfléchi. Mais voilà. Ce qu'on a fait, c'est autre. Donc ce n'est plus, pour conclure Thaïs, ce n'est plus en réalité la maquette Ngondankoï qu'on a. Même Ngondankoï lui-même doit l'avoir regretté.
Il a été baptalisé.
Il a été baptalisé, s'il faut le dire ainsi. Donc, Batandi Mbata, je le dis ainsi, nous ont amené un autre texte qui n'est pas le texte Ngondankoï. Parce qu'au moins on devrait avoir des repères de l'ancien texte par rapport au nouveau texte. Mais ce qu'on a, c'est autre chose.
Voilà. Amos, vous avez lu également cette loi.
Oui. Vraiment, c'est grave. Et Paul encore au peuple congolais. Je ne cesse de dire que siasa ni uchawi. Maître Maurice, comme tous nous l'avons lu, on a vu la proposition du prof Ngondankoï. Mais moi, au début, quand je vis cette proposition, ce projet de loi, j'avais dit qu'il y a un piège. Apparemment, Ngondankoï est allé d'abord voir les gens de l'Union Sacrée. Ils lui ont dit, fais ce projet pour distraire le peuple. Parce que c'est dans ces mêmes distractions que Maître Maurice est tombé. En disant, le projet est bon et que ça pourrait passer parce que, en fait, c'est de la, du rôle du député de légiférer. Mais en analysant la suite des événements, Thaïs, Gondankoï était manipulé par le pouvoir, était manipulé par Félix Tshilombo contre le peuple. Parce que si vous essayez de lire, heureusement Maurice lui-même vient de le dire, les deux textes, le projet de loi de Gondankoï, et la loi qui a été maintenant votée par les députés, c'est le jour et la nuit. On a évoqué l'article 86. Gondankoï était clair. Et dans ce, à cet article, il est dit que lorsqu'on constate qu'il y a des articles qui causent des problèmes au bon fonctionnement des institutions.
Non, non.
Oui.
Non, non. C'est lui qui initie tout une fait. Démarche tendant à réviser référendum, je crois, comme ça. Il devrait être passible de,
d'une peine. Ce n'est pas là. Je ne suis pas à ce stade. Oui, mais je ne suis pas à ce stade d'abord. Je parle que lorsqu'on constate qu'il y a dysfonctionnement, il y a certains articles de la Constitution qui causent des problèmes au bon fonctionnement des institutions de la République, soit sur le plan politique, économique ou social. On doit initier ce projet de référendum. Et qu'est-ce qui devait se faire en constatant ces dysfonctionnements? Il fallait d'abord qu'on nomme des experts. Et des experts qui devaient être nommés en tenant compte de leur indépendance. Même si j'ai toujours dit, et c'est ça, c'est selon moi, que parler de l'indépendance en politique, c'est le jour et la nuit, parce qu'on ne parle même que la Cour constitutionnelle serait indépendante. Mais quand vous voyez ce qu'Amoulet fait, c'est en faveur de son frère Félix. Et moi, je me demande où serait encore l'indépendance. Mais par rapport à ce qui était prévu, on a dit qu'on devait choisir des experts indépendants et qui devaient prêter serment en leur donnant la possibilité de faire leur travail en toute responsabilité, mais aussi en toute indépendance. Mais cela n'a pas été fait. Par rapport maintenant, si on peut se poser la question, est-ce qu'il y a ces articles-là qui posent problème par rapport au bon fonctionnement des institutions de la République? Il n'y a aucun article. Et j'ai dit à tout le monde qui soutient le changement de la Constitution, qu'est-ce n'est pas pour vous, Daniel? Je sais que tu représentes l'UDPS, mais il faut respecter quand même le micro. Je voulais dire quoi? J'avais dit précédemment, directeur, que si réellement Félix avait constaté que la Constitution ne lui permet pas de bien gérer le pays selon sa politique ou sa vision, il devait initier ce projet juste au début de son premier mandat. Et non à la fin de son deuxième et dernier mandat. Hein? Qui devient déjà une stratégie pour vouloir se maintenir au pouvoir. Beaucoup de gens ne m'ont pas compris. Et tout ce qui s'est fait, parce qu'on a même évoqué la question du contexte ici, par rapport au contexte que nous traversons. Nous venons de parler de la question d'Ebola. On vient de parler de la question de la guerre à l'Est. On ne parvient pas à comprendre comment nos députés, au lieu de réfléchir ces deux questions, ils sont pressés à changer la Constitution. S'agissant de ce que le projet de ou la proposition de loi de Gondankoï prévoyait, il était dit que après que les experts aient finalisé leur travail, on devait constituer une assemblée constituante.
Oui.
Et cette assemblée constituante devait aussi être
votée.
Ça ne devait plus être les députés que nous avons. Mais si vous essayez de lire ce que le texte qui a été voté par les députés reprend, ce n'est plus prévu. On a élagué tous ces articles et les députés seront eux-mêmes juges partis. Ce qui devient déjà un danger. C'était même prévu dans la proposition de Gondankoï qu'on ne devrait pas toucher l'article 219 et 220 et que quiconque devrait y penser, il devrait faire l'objet d'une poursuite.
C'est ça l'article 86.
Tout à fait. Mais tout ça, nos députés ont élagué ce genre d'article parce qu'ils constatent qu'ils ne devaient plus maintenir ce genre d'article au moment où ils sont jugés pas et partis. Maintenant.
Ils sont déjà dans l'initiative.
Tout à fait, ils sont déjà dans l'initiative. Ce qui m'énerve. Ce qui m'énerve. Ce qui m'énerve. Mais Ce n'est pas de la manière dont Godanko a proposé qu'ils l'ont proposé.
Donc on a supprimé 50 articles, on a reformulé une dizaine d'articles.
Tout à fait. Ce qui m'énerve, j'ai appris que celui qui était secrétaire de la PAJ, oui, c'est Batandi. Un élu de Kabare.
Oui.
On a vécu Batandi ici quand il était député provincial.
Mentionnel.
Il était actif comme pas possible. Et tout le monde disait, voilà un député qui peut aider la province et la nation. Mais il arrive à Kinshasa, certains gens disent qu'on leur avait donné beaucoup d'argent. Je ne veux pas dire ce qu'on est en train de dire. Et on leur a proposé des véhicules. Est-ce que tu n'as pas appris que même la plénière du jeudi n'a pas pu y aller? Du fait qu'ils ont dit, on ne nous a pas donné ce qu'on nous a promis. Apparemment, on va frapper. Toi, tu ne peux pas comment parce que tu es du régime.
Oui. Batandi n'est que rapporteur.
Non, membre de la commission.
Qu'est-ce que Batandi a dit? Moi, j'ai dit, soutenir le mal, c'est déjà un danger. Soutenir le mal, c'est déjà un danger. C'est le même cas pour Ngondankoï. Ngondankoï, s'il était du côté du peuple, est-ce qu'il a un jour tenu une conférence de presse en disant ce que j'avais proposé pour l'intérêt du peuple, ce n'est pas ce qui a été voté? Vous l'avez un jour entendu ça, que Maurice me contredise. Pour dire qu'il est aussi complice. Mais je voudrais dire quoi? Nous constatons avec regret que tous nos élus que nous avons élus, au Sud Kivu, à l'Est, sont en train de trahir les peuples congolais, plus particulièrement la population de l'Est. Moi, je voudrais appeler la population congolaise et plus particulièrement la population de l'Est de désavouer ces députés tous, sans exception. Parce qu'ils ont comploté contre la nation au nom de leurs intérêts. J'avais à dire ici, je pense que j'ai dit quelque chose et par la suite, l'histoire me donne raison. Quand on a nommé Bodji à la tête de l'Assemblée, j'avais dit, Bodji est nommé pour une mission spéciale contre la patrie. Beaucoup de gens ont tiré sur moi en disant, Amos, deviens un tu es contre ton frère. J'ai dit, un frère qui trahit son peuple n'est pas un frère.
Nommé Willy.
Nommé. Je connais comment ça a été fait à l'Assemblée nationale. Toi, tu n'as pas vu. Vous devez apprendre à dire la vérité.
Moi, j'ai vu les élections.
Il a été. Il y a une jour vu des élections d'un seul candidat. Où est-ce que tu as vu ça? Non, évitons l'amalgame. Moi, j'avais dit, évitez de me perturber. Nous sommes au micro. J'avais dit, Bodji est nommé pour une mission spéciale. C'est un manipulé de la présidence contre la population. Et aujourd'hui, j'avais dit qu'il a été nommé pour faciliter le changement de la constitution en faveur du régime Félix. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui.
D'accord, merci.
J'ai dit aux gens, évitez de dire non, Bodji n'est qu'un président, on connaît son rôle, on connaît le rôle d'un arbitre. Des fois, on dit dans un match que arbitre a quoi 12e joueur, en faveur d'une équipe donnée. Vous avez suivi ces propos quand l'opposition a quitté la salle? Si réellement nous sommes encore dans une vraie démocratie, est-ce que c'est le président de l'Assemblée nationale qui devait tenir de tels propos? Il est en train de défendre ses intérêts, sacrifiant ses parents, sacrifiant ses frères.
Faisons un débat
qui traverse une situation très grave, très critique, au nom de ses intérêts. Et nous disons, le changement de la constitution ne passera pas. Il y a des priorités, et aujourd'hui, la priorité pour le peuple congolais, c'est d'abord la paix à l'Est.
Voilà. Une minute, c'est le temps.
Oui, Thaïs, parce que je voudrais revenir à certaines dispositions. En fait, dans la proposition de Ngondankoï, il y avait deux niveaux d'experts. À l'article 87, il y avait des experts qui devraient constater les changements du contexte pour adapter la constitution, c'est-à-dire amener l'idée. Et il y avait également les experts qui devraient être membres de l'Assemblée constituante. Je ne sais pas si à moi ça me comprend. C'est-à-dire, lorsqu'on constate que la constitution n'est plus adaptée au contexte, on y réfléchit, le président de la République fait recours à ses experts qui essayent de travailler, et après, on va éventuellement constituer l'Assemblée constituante pour maintenant travailler sur le projet de la nouvelle constitution. Par après, on va avoir le temps, donc 3 mois normalement, pour présenter ce texte à la population en 4 langues nationales.
Ce qui n'est plus prévu.
Après, non, c'est prévu, il faut lire. Après cela, Thaïs, il y aura des campagnes qui pourront être menées par les uns et les autres.
Les pour et les contre.
Et maintenant, après ces 3 mois là-bas, on pourra maintenant revenir au vote consultatif pour soit accepter ces textes-là ou soit le refuser. Maintenant, la disposition. Non, c'est là que j'ai. Mais dans la proposition de Ngondankoï, c'était ça. Ici, c'est autre chose. Même à l'article 42 de la proposition Mbata Batandi, si je peux dire ça comme Amos individualisé, Ils disent, dernier paragraphe, hein, à l'issue de la dite consultation, le président de la République soumet à l'adoption de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui se transforme en Assemblée constituante, un projet de loi de changement de règles constitutionnelles. Donc, ils ont juste transformé cette disposition en s'arrogeant cette compétence-là de l'Assemblée constituante. Et donc, c'est un peu ça, les quelques difficultés qu'on a. Mais au moins, Ngondanko, il donnait quand même quelque chose d'un peu potable.
Oui, alors, nous sommes dans le cadre des articles.
Oui.
Moi, la question que je me pose, parce que nous sommes en train de suer ici, de parler des articles, voilà, il y avait ça, la proposition, les autres ont changé.
À quoi s'intéresse la nation?
Bon, ça y est, tout comme au cas vous. Est-ce que la discussion ici est vraiment opportune?
Non, non. C'est là que moi je vais rebondir. Hein. Il a commencé par dire que c'est un peu décevant. Évidemment, oui. il a changé par la suite. Il a
oui.
dit
très,
il a dit très décevant. Effectivement, c'est très très décevant. Voir qu'un texte comme celui-ci puisse sortir d'une Assemblée nationale dont nous connaissons certains membres, c'est vraiment excessivement décevant. La première chose que nous devons nous demander, nous devons nous poser, parce que nous sommes en train de parler d'un texte qui vient d'une constitution. Mais est-ce que ce texte vient vraiment de la constitution? La constitution, on l'a dit par plusieurs, la constitution ne prévoit que trois façons. Donc, ne prévoit que trois matières sur lesquelles on peut faire un référendum. Celle-ci, parce que la quintessence de ce texte, tous ces articles, la quintessence de ce texte, pour eux, c'est juste l'article 41. Donc, tous les autres articles pouvaient ne pas avoir lieu, mais c'est l'article 41 qui est pour eux le plus important. Et cet article dit quoi? L'article 41 dit que, à la suite d'un dysfonctionnement majeur, paralysant ou menaçant de paralyser les institutions de l'État, le président de la République peut, conformément à l'article 69 de la Constitution, recueillir pour avis, avant toute initiative institutionnelle, l'opinion des experts sur toute matière constitutionnelle qui ne sont pas adaptées à la situation politique, économique, sociale et culturelle du pays. À cet effet, il convoque et organise par ordonnance une commission nationale multidisciplinaire de réflexion. C'est uniquement ça.
Donc,
tous les autres articles de cette loi,
c'est pour habiller.
C'est pour habiller seulement cet article. Parce que l'objectif, c'est de changer la Constitution. Et il n'y a qu'à ce niveau qu'on peut avoir. Mais maintenant, voici. En quoi une loi peut augmenter une matière, les compétences du président de la République sont définies dans la Constitution, à partir de l'article 78 jusqu'à l'article 88. C'est là que toutes les missions du président de la République sont définies. Maintenant, cette loi ici, cette proposition de loi, vient lui ajouter une matière. En vertu de quoi? Une loi qui... Parce que c'est une loi presque organique, d'ailleurs. Ce n'est pas dit, mais parce qu'ils ont pris l'article 5 de la Constitution comme base. Et là où ils ont triché, c'est vraiment de la tricherie pure et simple.
Et déjà comme Danis
Pierre. Ils ont tout simplement élagué les trois articles, l'article 2 de la Constitution, l'article 214 de la Constitution et l'article 218, je crois. Oui, 218.
214, 218.
Et 218. Ils n'y ont fait aucune allusion. Les seuls articles de la Constitution où on parle des référendums. Dans le préambule, il ne parle que de l'article 5.
Ngondanko, il faisait
allusion. Hein? Non, moi je ne parle pas de Ngondanko. Moi je parle de la proposition de loi, donc, ce qui a été finalement soumis à l'Assemblée nationale, à la plénière. C'est ce que nous avons ici. Nous n'allons pas.
C'est ce qui a été adopté. Donc, voilà, la proposition de Ngondanko
n'est plus à l'ordre du jour.
Oui. C'était une stratégie pour nous flouer.
Donc, sincèrement, bon. C'est vrai qu'il y a des considérations politiques, mais on ne peut pas se rabaisser. Les hommes, les grands hommes ne peuvent pas se rabaisser jusqu'à ce niveau ici. Nous avons une constitution, qu'ils le veulent ou pas, nous l'avons. Et cette constitution, c'est elle, c'est sur elle qu'eux-mêmes sont en train de siéger. Parce qu'en même temps, ce que vient de lire Maître ici, ils se donnent le pouvoir d'être une assemblée constituante. À base de quoi? Ils n'ont que deux missions qui sont définies par la Constitution. Un, légiférer. Deux, contrôler. D'où leur vient? D'où leur vient cette autre mission d'être une assemblée constituante? Ça vient d'où? Donc, c'est vraiment quelque chose. Moi, je ne suis pas en train de comprendre que la politique peut nous ridiculiser, peut nous rendre bêtes.
Jusqu'à
ce niveau ici, jusqu'au niveau de cette loi ici. En tout cas, on est bêtes. Parce que, mon cher Thaïs.
Alors, ça signifie que vous avez évoqué quelque chose d'important. Quand vous dites que le rôle des députés, c'est de contrôler, de légiférer. Donc, dans la proposition de loi ici,
on fait qu'ils sont constituants.
Ils ne pouvaient pas s'ériger le pouvoir d'être.
Mais comment ça
D'examiner la constitution.
C'est toujours légiférer, ce qu'ils sont en train de faire.
Non. Constituante. L'Assemblée qui devient constituante, ça ce n'est pas les...
Ngondanko,
aller au-delà.
Ngondanko, il le prévoyait.
Il prévoyait que l'on organise des élections, pour une autre assemblée constituante.
Voilà. Mais maintenant c'est l'Assemblée nationale.
C'est qui n'est plus le cas.
Oui. Maintenant c'est l'Assemblée nationale qui devient non seulement...
Et c'est de la politique.
Hein? Non.
Qui vote cette loi entre les pays.
En 2005, c'est le Parlement, sauf erreur de ma part, c'est le Parlement de la transition qui était... transformé en assemblée constituante.
Tout à fait. Je suis d'accord avec toi.
Ce n'est pas exclu.
Je suis d'accord avec
le Parlement actuel soit transformé.
Non. Maintenant, nous avons une constitution.
Oui, effectivement.
Maintenant, nous avons une constitution. Même la constitution de la transition.
Il y avait la constitution.
Même la constitution de la transition. Même la constitution de la transition avait effectivement prévu qu'elle serait constituante. C'est la constitution qui avait prévu.
Le mal pour modèle.
C'est la constitution qui avait prévu. Mais où est-ce qu'on se donne ces culots-là? Ces culots-là, non seulement alors que la constitution elle est claire sur les matières, sur les attributions de l'Assemblée nationale, que cette loi lui augmente une autre attribution. C'est quoi cette histoire ici? Ça c'est être bête. Nous nous sommes rendus très très bêtes. En plus de cela, est-ce qu'il y avait même nécessité de faire cette loi ici? Bon, on a parlé de l'opportunité qu'on sort. Parce qu'il y a déjà une loi de 2005, comme tu l'as dit, portant référendum. On pouvait juste faire une loi portant modification, complétant cette loi-là. Il n'était pas utile qu'on fasse cette histoire ici. Et là, surtout le fait d'avoir omis les trois, parce que c'est une loi référendaire, la Constitution a prévu les matières sur lesquelles on doit faire un référendum. On n'a fait aucune allusion. Aucune allusion, s'il vous plaît. En plus de cela, et à l'article, paragraphe 5, je crois, de cette... voyons ça. Ça. Au paragraphe 5, déjà au paragraphe 5, ces gens ont évoqué une nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution-là, c'est laquelle? Dans le même ordre d'idées, il convient d'adapter à la nouvelle constitution les procédures du déroulement du référendum autant que les règles applicables en cas de contentieux suscité par ces opérations tout en renforçant son régime répressif. Déjà, en préambule à l'exposé des motifs, on parle d'une nouvelle constitution. C'est laquelle? Moi, je n'ai pas compris cette... Alors, premier article. Déjà au premier article, l'objet de cette loi ici. Alors, la présente loi fixe les règles relatives à l'objet, à la procédure, à l'initiative et à la convocation du référendum, ainsi qu'aux infractions et contentieux et consorts. L'objet est connu. L'objet des référendums est connu. Cet objet-là est défini dans la Constitution, aux articles que nous venions de citer ici. Les autres histoires, parce que là, pour que cette loi passe, elle doit être conforme à la Constitution. En principe, hein?
Normalement.
En principe, à part les autres, ce que Amos a dit là. À l'article 4, la Constitution, à l'article 4, on dit que le référendum peut être organisé sur toute matière d'importance fondamentale pour la vie de la nation, conformément à l'article 5 de la Constitution. Mais qu'est-ce que ça signifie? Sur toute matière d'importance fondamentale, là, on a dit ici, la Constitution a fixé l'objet des référendums. Tout ce qui peut faire matière à référendum, la Constitution l'a déjà fixé. Maintenant, toute autre matière d'importance là, fondamentale, ça vient d'où?
Non, il y a des sortes de référendums.
Non.
Il y a le référendum consultatif, le référendum décisionnel. J'imagine, en fait.
Non, ici, on est en train de parler...
Non, c'est pas...
On est en train de parler de la Constitution et de la loi. N'est-ce pas? La Constitution, ici, qui fait l'article 5, c'est la même Constitution qui a fait l'article 214 et 218. La Constitution a prévu le référendum à l'article 5. La Constitution a dit... Tout ce que vous pouvez revenir pour le référendum, c'est l'article 2, l'article 214 et l'article 218. C'est ça la Constitution. Cette autre matière d'importance capitale, qui va définir une matière d'importance capitale? Qui va la définir? Qui va définir cette matière capitale-là? C'est la Constitution que va mettre le président. Avec tout ce qu'on connaît.
Cette matière d'importance capitale peut être soumise au référendum consultatif.
Qui va définir ça? Parce qu'on a dit sur toute matière d'importance fondamentale. Qui va définir cette matière fondamentale-là? Qui va la définir?
Non, c'est sous-entendu dans les
textes. Non, mon cher maître. La Constitution, nous sommes en train de parler de la loi qui vient de la Constitution. La Constitution a fixé les règles. Par quelle magie cette loi, parce que c'est une loi organique, par quelle magie la loi, donc la Constitution a donné l'objet, les matières qui peuvent faire objet des référendums.
Tout à fait.
La loi, donc la Constitution a les bloqué. Maintenant, donc, ça c'est la... Oui, ça c'est l'article 5. Quand tu vas... À l'article 16, s'il vous plaît, qui tu n'y est ce qui est à moi, c'est au niveau des recours.
Article 16. Voilà.
Peut former un recours en contestation des opérations ou des résultats des opérations du référendum devant la Cour constitutionnelle dans les 8 jours ouvrables suivant la publication A. Tout parti politique ou regroupement politique justifiant d'un intérêt. Ici, nous sommes en train de parler du référendum. Le procureur général plaît la Cour constitutionnelle pour l'intérêt général. Il n'y a que les deux.
Oui.
Ici, nous sommes en train de parler du référendum. À tout quoi pour m'intéresser à mon parti politique.
Rondanko, il lui proposait même les organisations de la société civile.
Non, voilà. Donc, à tout quoi pour m'intéresser à mon parti politique à ce niveau ici. Nous sommes en train de parler du référendum qui concerne tout le monde, là où tout le monde a intérêt, tout le monde, donc tous les peuples, il a intérêt. Pourquoi seulement on sait Dieu n'y va dans ce parti politique, regroupement politique justifiant d'un intérêt, un intérêt particulier mon référendum, il y a parti politique, il t'a tout kawak, hein? Parce que l'intérêt justifiant d'un intérêt, ça veut dire par exemple on a fait un recours parce que balikunyanganya va député bako.
Oui, c'est ça.
Hein? C'est là l'intérêt du parti politique. Et le référendum, c'est pour tout le monde. Donc, comme tu dis, on aurait dû au moins, dans ce cas ici, parce que comme ça concerne
la population,
le référendum, c'est tout le monde. Il n'y a pas d'intérêt particulier, il y a Moutou, ni il y a parti politique. C'est pour l'intérêt général. On aurait dû mettre aussi le peuple. Je ne sais pas pourquoi. Bon, peut-être que... Le procureur général, évidemment, on a défini, je crois, le mode de saisine. On dit que le procureur... Oui, oui. Mais le procureur général, vous n'allez pas demander quand même au procureur général actuel de faire quelque chose contre le pouvoir actuel. Bon, je ne sais pas. Mais, ukiona mzuri hii nani, tu sais qu'il y a 19 articles. Le plus gros des articles, il y a ni ma peine.
Oui.
Le plus gros, ni ma peine. Il y a 40
bref, hein?
Disposition pénale, deux ans.
Bref,
Bref, que tu augopèches par rapport à ça.
Pour faire perdre
pénale, c'est de vendre à 40.
C'est-à-dire, le temps.
19.
Le temps passe.
19 articles.
Donc, Debakoulou, pour moi, non seulement
qu'il y a un problème de contexte, est-ce que s'il n'y a pas. Est-ce que ça vaut la peine de porter Zemmour?
Il dit qu'il se trouve en faille.
Non seulement qu'il y a ça, mais tout simplement la loi est inconstitutionnelle. La loi est inconstitutionnelle. En principe, il y a une loi. En principe.
Ça doit être rejeté
en principe. Non, il n'y a pas de président. Non, il va finir.
Hein? C'est lui qui l'a manipulé.
Non, non, tu sais, en 2015,
ils sont servis.
En 2015,
cette discussion aussi a été élaguée. Hein? En fait, parce que Ngondanko, il proposait qu'après l'Assemblée nationale et le Sénat, lorsque les deux chambres ne se conviennent pas, la démarche est bloquée. Dans la proposition.
C'est pas comme la.
Bon, en 2015, mon ami.
On a
eu le même problème.
Oui.
Et tout le monde disait à l'AFC.
Non, ça va s'appeler
AMP.
AMP. MP. Tout le monde disait c'est fini.
FCC.
Alliance de la majorité présidentielle.
2015.
Non,
c'est FCC. C'est
vous, non?
Souvent la RDC, c'est autre chose. Ce n'est pas la majorité de l'époque.
Non, comprends.
Et tout le monde pensait que ça allait passer. Mais un homme.
La position de maître.
Un homme au Sénat, au pêchoir du Sénat, a dit. En un seul mot. Écoute-moi. En un seul mot, bitiote, bikaribika. Et ça aussi, j'espère que un président normal, sérieux, doté de tous les sens, politique, moral, a ouais signé.
Malheureusement.
Mais ici, maintenant,
il y a un flou.
Parce qu'on ne sait pas ce qui adviendrait lorsque ça ne passe pas au Sénat. Ici, c'est, rien n'est dit. Peut-être.
Le peuple va trancher.
Non, c'est là, non.
Oui.
Non.
Dans le.
Cette loi elle-même devrait prévoir tout ça.
Non. Si ça ne passe pas,
on va
ça
aller
dans les lois normales, ça veut dire.
Je crois que les règlements intérieurs.
Même la Constitution le dit.
Avant que les lois soient promulguées, ça doit passer par le Sénat.
Oui, et si le Sénat adopte la loi. Dans les termes contraires de l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale qui prime.
Ouais, c'est ça. Mais Ngondanko, il lui prévoyait que si les deux chambres ne se mettent pas d'accord, la démarche est bloquée.
Oui,
dans sa proposition.
Mbata a eu peur.
Normalement, cette proposition aussi devrait,
Mbata a eu
peur. Dans la logique des choses,
oui. Non.
Avoir ces articles-là qui essayent un peu de clarifier la situation.
Mbata a eu peur de cet article-là.
C'est bon. Merci
parce
beaucoup.
Comme il ne contrôle pas le Sénat.
Merci beaucoup. Daniel Mourola.
Il a une mission.
Merci beaucoup, directeur. Moi, je pense que.
Votre position est connue.
Je n'ai pas de position. Apparemment, vous connaissez déjà ma position avant de prendre la parole.
Vous êtes en faveur du changement de
politique. Je dis, comme tous, nous sommes en démocratie. Et la Constitution nous garantit cette mesure de clémence où chacun a le plein droit de prendre une position selon sa compréhension ou la lecture de la situation. Vous avez suivi Amos. Amos, il prend la parole, il commence à parler de Batandi et parler de Bodji. Pendant que nous parlons de la proposition
de
la loi, Thaïs, il l'a dit, mettre sous réserve, juridiquement, cette loi s'inspire de l'article 5, 114, 118 sous-entendu de la Constitution. Parce qu'en principe, si vous lisez l'article 4 Parce qu'on a supprimé l'article 4 jusqu'à l'article 24, la proposition initiale, qui prévoyait les matières sur lesquelles le référendum doit porter. Mais ces articles ont été supprimés, plus de 19 articles. C'était une redondance. Mais d'une part, vous allez voir qu'il y avait une lourdeur par rapport à la proposition initiale. Ce qui est normal, je suis content de voir que même Amos et l'aîné de Bakour sont d'accord que la proposition initiale était bonne.
Quand on parle au même moment, les auditeurs ne suivent pas.
Oui, je suis d'abord content de voir que les débats maintenant, aujourd'hui, c'est sur la modification du texte.
C'est ça.
Autrement dit, si le Sénat revient sur donc le texte initial, Amon sera d'accord avec moi et l'aîné il débacoule.
Je m'excuse, Amos.
La loi en question n'a pas modifié la Constitution.
C'est la démarche.
Et là seulement défini la procédure. Parce que la Constitution ne peut être modifiée que par elle-même. Lorsqu'on parle de la Constitution, parce que quand Amos parle du peuple syrique, nous sommes encore au niveau de la loi, comme il l'a dit, sous-entendu la loi 4, qui devrait définir les procédures par rapport à l'organisation du référendum. Voilà pourquoi l'article 4, ils ont supprimé les différentes matières, ils ont dit toutes questions fondamentales. Parce que l'aîné a dit, c'est quoi au juste? Au lieu qu'il y ait cette limite épistémologique, au point que la loi définit déjà A, B, C, D, et si F se présente, on fait quoi? Il fallait ouvrir cette brèche, parce qu'il y a plusieurs questions fondamentales de la société, comme aujourd'hui, les contextes dans lesquels nous sommes, que prévoit la Constitution? Thaïs, que prévoit la Constitution? C'est une question fondamentale.
Il n'y a pas d'opportunité.
Je m'excuse. Oui, tu es d'accord encore, tu évoques la question d'opportunité. Les débats devraient être maintenant à ce niveau-là, Amos. Les vrais débats devraient être ça. Et le principe démocratique, c'est ça. Nous avons adopté la démocratie comme mode de gouvernance. Nous devons nous accepter mutuellement. Les députés nationaux, ce qu'ils ont fait, dis-moi quelle est la disposition de la condition qu'ils ont violée. Deuxièmement, ils sont à 500. Est-ce que ce n'est pas de leur droit de légiférer? Et lorsqu'on estime que les 500 personnes, la décision prise par 500 personnes, la brèche ici, la souveraineté du peuple, le référendum, c'est une voie d'expression populaire et de consultation directe de la population. Mobilisez-vous, la population, qu'elle vote contre la loi. Donc, s'il y aurait référendum, et ceux qui sont pour, de leur côté, qu'ils mobilisent la population pour voter pour cette... nouvelle constitution. Ça serait ça le débat. Mais le vrai débat, Thaïs, en principe, toute réforme doit renforcer les principes démocratiques. Mais pas, pas fragiliser. Amos, il faut avoir l'esprit d'écouter.
Respecter la modération.
Hein? Amos, ne sois pas dans les mouvements citoyens quand même. Si chez vous, souvent le Congo ne respecte pas la modération, nous autres, ce n'est pas comme ça. Donc toute réforme doit renforcer les principes démocratiques. Les principes démocratiques, nous disons non. On ne peut pas organiser le référendum sans nous. C'est ça le débat, le vrai débat, Thaïs. Est-ce que nous acceptons que cela soit fait sans le nord et le sud qui vous? Admettons que la loi est là. La loi sera soumise au Sénat. Le Sénat va aussi, de sa manière, peut aussi modifier. Il faut que le président de la République aussi doit promulguer la loi. Et la loi doit être enregistrée au journal. Donc ça, c'est une procédure.
Daniel, vous parlez en bon français comme enseignant. Mais ma grand-mère qui est à Louvona, mais on a tout fait pour radio ça, tu sais même que soit il est Daniel Morola. Et tout on a sema à Paivé. Est-ce qu'il vient intéresser Benzeto va Chivingu, comme va Arnavé, Kwenye Biko va Nachimbia.
Qui souffre.
Ça tu l'as sema, ma texte ça ku saïdia la bouda bakoua va changer constitution. Mais est-ce que vraiment il devait y être quoi? Mais tout le monde est en pas. Est-ce que n'est bien la zima?
Directeur, mais la phase de tout quoi, moi, mukifaransa kungana phase ya conception
pour quel intérêt
utakuwa phase ya mise en application ou population il a fait je m'excuse mais nasema ulizwa kwenye faria kusema est-ce que njoo ulizwa mimi tulipasha njoo ulizana sasa est-ce que ile kitu iko na mafasa hii
kwetu shie
bituko hapo ça serait ça la bonne question à part nasema ni mubani fulani ni walifanya est-ce que ni ya mafa tunaweza sema ndio ile kitu tuniona meko par rapport na muda ya tuko hamu muda ya tuko hamu tuko ebola iko shia tuwezi na Kinshasa banki hazitumiki tunawaza tuko muvita tunawaza tungiwasi
sasa tulichagulaka ba depute juu ya nini les députés nationaux benye biko bana examine hii kitu hii
ndio na ndio ya maana sisi tuliwachagula tukapatia ile pouvoir
sasa
wakati wao wanawaza kama binyi wanafanya ndio ya maana kwetu tuko na ile fasoko kwa sanctione ni kuvote tena tutawa sanctione ndio mimi nawaza sasa ile tu kwa du député qui a voté il nous représente là-bas Kinshasa on doit l'accepter Thaïs wakati tunapatia
aujourd'hui non
hapana non awe katana umoe wao kwa sababu la RDC mbona wa député
Daniel mais est-ce que tu sais que les députés nationaux et provinciaux violent depuis 2015 une disposition du règlement intérieur qui dit que chaque député a l'obligation pendant les vacances parlementaires de rester dans sa circonscription électorale être en contact avec la base pendant un mois. Et à l'issue des vacances, il élabore un rapport. Bon, on a évoqué ici les cas de force majeure, mais nous avons les téléphones.
Tu as des groupes WhatsApp?
Oui.
On peut traquer Kinshasa
et contacter la base pour obtenir la matière que l'on va présenter.
Le problème de sa base.
Oui, le problème de sa base.
Dani a dit.
Alors, moi, ma question, c'est celle-ci. Les députés, c'est vrai, nous sommes en guerre, nous sommes dans une autre zone. Ils ne pouvaient pas venir ici parce que nous sommes en guerre. Mais est-ce que vraiment c'est cette matière pour la ville, prenons seulement parce que vous vivez ici en ville, hein, la matière il y a population à ville à Bukavu, à Penda, à l'Assemblée nationale, va débattre, les OI.
Maurice Perret,
les matières gagnent. Est-ce que c'est ça ce que nous sommes en train de dire?
Le retour de la paix.
Minawaza, la divia de manière simple.
Oui.
Nous acceptons le contexte. Le contexte aussi ne doit pas limiter à réfléchir sur l'avenir. Je suis d'accord avec ça. J'ai dit.
Qu'est-ce qui est urgent?
Donc, les urgences, on va les départementaliser et les hiérarchiser. Le contexte, d'abord, nous voulons que mettre fin à la guerre.
Voilà.
Je m'excuse.
Voilà.
Amos, je m'excuse, directeur.
Je vous oriente.
La constitution.
Chez vous, l'urgence, dans votre famille, l'urgence, c'est quoi? C'est de manger, non?
Oui.
Oui, parce que vous et moi, nous parlons, c'est parce que hier, nous avons mangé ou ce matin, nous avons mangé. Voilà, c'est ça la priorité. Et nous ici à Bukavu, quelle est la priorité? Population à Nyamugo, bati à Bagira, bati à Panzi, bati à ya Luziba, Luziba.
Priorité tout ça est chez vous, Tenyamanga.
Est-ce que ça y est vraiment?
C'est la paix.
Yes, c'est ça. Voilà.
Qu'est-ce que tu dis à
Est-ce que ça y est? Est-ce que ça y est? On peut maintenant réfléchir comment mutafanya extension à la ville à Bukavu, voilà, muta réfléchir comment le président de la République a atteint le mandat, où il faut réfléchir comment mettre fin à la guerre. Tout ce qu'on a lié à ça, il y a tous qui ont accédé au franc et tout, il y a une comme ma banque, il y a une au Rwanda, ma banque, il y a une banque, aujourd'hui, on a exigé que dans des écoles, les écoles commencent à payer la régie des eaux. Et d'ici là, vous allez voir que la régie des eaux va couper l'eau dans plusieurs écoles ici. C'est l'État qui payait. C'est l'État qui payait. Vous allez à l'Institut de Banda, vous allez au collège à Bouindi et partout là-bas dans des écoles, vous allez voir. Biko na madeni ya ma 5 millions de francs, ma 2 millions de francs congolais. Na Ivi batoto banaenda ku vacances. Les parents ne vont plus payer la prime. Pour que le préfet va pas te guisser à kulipa mai. Donc, en septembre, nous allons rentrer. La régie des eaux aura déjà coupé l'eau dans toutes les écoles.
Et surtout pendant cette période.
Dans toutes les écoles conventionnelles et officielles de la province et de la ville de Bukavu. Alors, ce sont là des matières que les députés devaient amener, parce que c'est l'État normalement qui payait l'eau et l'électricité dans des écoles. Mais maintenant, comment on peut sauter en train d'examiner cette loi qui n'a pas d'importance directe sur nos enfants? Je suppose que même parmi ces députés là-bas, ils ont leurs enfants ici qui étudient dans ces écoles là-bas. Mais en septembre, quand il n'y aura pas de l'eau, quand il n'y aura pas d'électricité dans plusieurs écoles ici,
ça va fonctionner.
Comment c'est vrai qu'ils sont en train d'amasser un peu d'argent parce qu'ils ont encore la prime, mais ils ont encore les émoluments. Mais nous qui sommes ici, maître Daniel Mouroula, est-ce que nous pouvons vraiment dire que il y a opportunité d'examiner tout le monde dans un article, les amis, les auditeurs qui sont en train de nous suivre, ils peuvent dire ah ben tu vois là c'est massé matou, et ils peuvent tourner les boutons.
Je suis d'accord avec vous. Dans ce sens-là, vous nous amenez, nous qui sommes ici, à ne pas s'intéresser à ce débat. Parce que s'il faut se focaliser sur la situation actuelle, nous souffrons. Et souffrir pour nous, nous avons ce qui
les élus,
nous disons, nous avons ce qui nous gère. Vous avez parlé d'une question très intéressante. Moi, je suis du monde académique. Je sais que l'eau, l'électricité dans les universités, les écoles, c'est pris en charge par l'État. L'État n'a pas cessé d'exister aussi que vous. Il y a une administration. Les mouvements d'amour subissu, moi, sauf la RDC, qui gère la province, en collaboration avec la FCM23, je m'excuse.
Daniel, tu dois éviter de dire n'importe quoi au micro. Tu vas t'exposer.
Il y a une collaboration. Vous avez suivi la dernière déclaration, même Métra dit que l'AFC peut changer la dénomination parce qu'il y a d'autres structures qui veulent adhérer.
Toi et Maurice,
moi j'estime qu'il fallait plaider auprès de ceux qui sont là, Thaïs, qu'ils soient en mesure de... Parce que la Régie des Eaux, c'est une institution étatique.
Qui va plaider?
Je dis, il faut qu'on plaide, nous, dans des émissions. Ils ont leurs représentants.
Nous avons
avant, s'il est des mouvements citoyens, c'est parmi ses rôles. Il ne doit pas seulement taquiner Kinshasa.
Il y a ceci.
Dans tes propos, tu as touché déjà la balkanisation.
Il y a ceci.
Non. Quelle balkanisation?
Daniel, oui. Daniel, vous et moi, nous parlons au micro de Radio Mandela. Nous n'avons jamais été élus. Il y a des gens à qui nous avons donné la responsabilité. Ils ont mandat. Daniel, vous n'avez pas mandat de plaider la cause de la population. Nous pouvons en parler ici. Mais avec quel pouvoir que nous avons? Nous avons des députés provinciaux. Nous avons des députés nationaux. Nous avons même des conseillers communaux. Alors, des questions comme ça, des problèmes que les gens ont, ce sont là les problèmes que nous souhaiterions que l'on débatte au niveau national.
Tout à fait.
Voilà, les écoles, les universités sont dans difficulté dans les zones sous l'administration de la FCM 23. Les écoles ne savent plus payer l'eau et l'électricité. Mais comment on pousse le gouvernement central, comme le gouvernement continue à payer les salaires, les enseignants? Pourquoi Kinshasa ne peut pas aussi envoyer l'argent pour payer la Régie des Eaux? Parce que la Régie des Eaux doit fonctionner aussi, la SNEL doit fonctionner. Mais nous sommes perdus dans des textes comme ça, des propositions pour changer la constitution afin de laisser les gens continuer à gérer le pays.
Et puis des défaillants.
Et on est ridicule.
Des défaillants.
Et ils ne sont pas encore au niveau de
changer dans la gestion.
C'est la démarche.
Ide Bakulo, il a dit, on a très mal géré la question d'Ebola à Nitori.
Oui.
Voilà.
Les conséquences sont là aujourd'hui.
Ça devait faire l'objet d'une interpellation.
Oui, ça devient toute la République. Pour Daniel, et même les pays voisins. Même les pays voisins. Pour tout simplement l'incompétence des Congolais. Oui. Maintenant, l'épidémie va à travers le monde.
Ravager.
À travers le monde.
Nous allons terminer, Maurice. Vous aurez la parole après, Maurice. On est en train de conclure, s'il vous plaît. Dans deux minutes, il y aura une autre émission.
En fait, moi, j'ai une recommandation à vous faire. Lorsqu'on débat de cette proposition, nous-mêmes, nous créons déjà l'opportunité pour cette proposition. Parce que dans la logique des choses, nous, on a quitté nos maisons, on est venus débattre de ça. C'est-à-dire, la radio a trouvé que c'était aussi opportun.
Oui.
Et c'est pourquoi on est ici, même à Mos. C'est opportun. Parce que nous sommes là et nous débattons.
On devrait, ce soir.
Voilà. Et donc, peut-être à la prochaine, pour d'autres questions qui touchent la société, ça dépendra. Parce que l'émission est paix et développement. On pourra programmer selon les sujets et on viendra. Mais on est venu aujourd'hui parce que ça fait débat. Donc, il y a opportunité, Thaïs.
D'accord.
De débattre, c'est que ça. peut-être la hiérarchisation des opportunités pourra, pourra ça fait avoir un autre effet, mais au moins, à trois reprises, moi je suis en train de venir ici, on débat sur ça.
D'accord.
Et donc, ça fait la
À notre niveau, il y a opportunité parce que ça fait, c'est à la une.
C'est ça en fait. Oui.
Mais moi, ma question était de savoir, au niveau de l'Assemblée nationale, est-ce que c'était opportun pour eux,
je l'ai toujours dit,
oui, d'examiner
je l'ai toujours
ça.
Dit, la priorité des priorités, c'est d'abord le retour de la paix.
D'accord.
On a interdit à personne de réfléchir, mais il y avait ce qui était plus urgent, c'est la paix. Donc, d'accord, tous nos députés, normalement, devraient être focus sur le retour de la paix.
C'est bon.
C'est ça. Bakolo. Par rapport aussi à la question des régies des eaux, c'est vrai, il y a Kinshasa qui essaie d'intervenir, mais également...
Moi, je suis là pour vous informer.
Mais vous êtes payé.
Je suis là pour vous informer.
L'État m'a payé.
Voilà.
À travers la je vais vous informer à ce sujet.
Rapidement, oui.
La régie des eaux, la SNEL, les dettes de l'État à la régie des eaux et à la SNEL sont énormes parce que l'État ne paye jamais. Donc là, je vous informe tout simplement.
Même dans les camps militaires.
Jamais. Même dans les camps militaires. Même au gouvernorat ici, l'État ne paye jamais. Donc, parce que ces dépenses-là.
Jusqu'aujourd'hui.
Oui, jusqu'aujourd'hui.
Donc, même ceux qui sont là.
Ces dépenses. Mais parce que la régie des eaux, c'est l'amende. Ça veut dire que même ceux qui sont là ne leur paient pas.
Ah, bon, c'est d'accord.
Donc.
Pourquoi tu me poses ces questions?
Ces charges-là sont appelées, dans les termes budgétaires, sont des charges communes. Et ces charges communes sont gérées par le ministère du budget. Demandez au ministre Bodj qui était.
Il n'a rien fait mal.
S'il n'avait jamais payé un seul franc à la régie des eaux et à la
le mentor de Daniel
Mouloul. Moi, je parle de mentor ou pas. Maintenant, pour revenir à la question, nos députés, effectivement, il faut en parler. En principe, dans tout ce qu'on est en train de faire, la seule manière dont pourraient se comporter nos députés, c'est de faire pression sur le gouvernement. Faire pression sur le gouvernement, comment? Par exemple, en séchant des choses comme ça, ils disent, nous n'allons pas siéger si ceci, c'était facile comme ça. Maintenant, pour chuter, revenir à ce texte ici, mon cher Daniel, lui, maître le sait, en droit, on ne laisse aucune ambiguïté. On ne laisse aucune ambiguïté en droit. C'est pour cela que quand je te dis ceci...
Le sous-entendu.
Oui, quand je te dis ceci, le référendum peut être organisé sur toute matière d'importance fondamentale. C'est quoi ça?
Quelles sont ces matières?
Et au deuxième alinéa, ils disent, l'expression matière fondamentale désigne toute question touchant aux intérêts supérieurs de l'État. Ça veut dire quoi?
C'est ça, matière fondamentale.
Ça veut dire quoi? Tout intérêt supérieur de l'État. Ces intérêts supérieurs de l'État-là, ça veut dire... Quoi?
On explique déjà. Bon,
toi, tu es avocat. Dans le flou, tout peut venir dans le flou. C'est pour cela même que cette histoire-là. Non, s'il vous plaît, mon cher ami. C'est vrai, on a des tendances politiques, mais nous sommes d'abord intellectuels. Nous sommes des gens dotés de l'intelligence. Ce n'est pas pour rien que nos parents ont payé leur argent. Pour que nous allions à l'école. C'est pour éclairer les autres. C'est pour cela que nous avons étudié. Mouroula, tu ne peux pas prendre un texte comme ça et commencer à le défendre.
D'accord. Merci.
Est-ce que je m'excuse juste une chose.
Terminons l'émission, s'il vous plaît.
Juste une chose. Je m'excuse, Thaïs. Parce que tout ça, une position politique.
Par rapport à la compréhension.
Non, Mouroula, juste quelque chose. Par rapport à ce texte, parce qu'on l'a dit, on l'a fait ici. Où le président doit consulter, je ne sais pas quoi. La Constitution ne donne qu'une seule matière sur laquelle le président peut consulter le chef d'organe, notamment le premier ministre. Et c'est à l'article, je crois, c'est à l'article 148 de la Constitution. C'est à ce seul point-là que la Constitution donne au président l'occasion de consulter. Maintenant, ces histoires qu'on a mis dans cette loi,
il s'est pour prolonger son mandat.
Voilà. C'est une loi tout simplement.
Fin de l'émission Paix et Développement. Merci de l'avoir suivi. La rediffusion demain lundi, 19h30 sur Radio Mandeleur. Merci, bon dimanche.
Merci.